Le thé et l'actu. Vous allez bien ? Et on a commencé ce stream par une bonne nouvelle, une jolie nouvelle que j'ai épinglée. Britoux nous a écrit il y a quelques minutes à 9h14 précisément. Bonjour à tous, je suis devenu papa, rien de tel que Samuel Etienne pendant un biberon. Trop mignon. Moi, j'espère que les premières nuits se passent bien en général. Les premiers mois, les nuits sont un petit peu hachées, les petits chouchous. Félicitations à toute la famille. Samuel, je t'ai connu à l'époque au JT de France 2. Ouais, c'est vrai. Tu ne fais plus télématin ? Non, 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 oui, non. Ah oui, c'est vrai, il y avait. C'est vrai que. Non, je faisais la matinale de France Info à l'époque et du coup, on faisait un JT pour France 2, ouais, je me rappelle, ouais. Oui, oui, non, ça, c'est... J'ai arrêté pour pouvoir streamer plus. J'ai arrêté il y a un an et demi maintenant. Donc, voilà. Mais on ne peut pas tout faire. C'est... Ming, GG, ouais. Niveau de fou sur Valo, hein. Merci beaucoup, ouais. Bon bah et merci à la commu puisque manifestement dans le raid c'est quoi cette coupe de cheveux, c'est une catastrophe, on dirait qu'il me reste deux cheveux mais ébouriffé. Merci à la commu aussi parce que vous êtes toujours formidable quand on va sur la chaîne de quelqu'un d'autre avec un raid et je sais que vous envoyez beaucoup de force, beaucoup de d'amour même je dirais, voilà, et Ming manifestement a passé un bon moment avec vous, ouais, bravo Ming, ouais. J'espère que c'était quoi, c'était un stream de 12 heures hein, sur Valo, j'espère que ça s'est bien passé. On essaiera de faire un petit peu de Valo cet après-midi aussi. Revue de presse ce matin jusqu'à midi, réunion. J'ai un petit Teams pour préparer le MVP de demain, ça je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a un joli MVP qui arrive, mon émission bimensuelle sur le monde du travail, de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation, tout ça. Et puis cet après-midi, je vais faire un peu de Valo. Parce que d'avoir vu jouer les championnes, il fait chaud, tout ce week-end, au RTS, à la RTS, ça m'a donné envie, non pas de devenir bon, mais de jouer beaucoup. Voilà. Là, je vais en vacances la semaine prochaine, je ne vais pas streamer du tout. Merci Auverdoux. Auverdoux. Je vais en vacances la semaine prochaine, je suis en vacances la semaine prochaine avec la famille. Je ne stream pas, parce que j'essaie aussi de passer du temps avec la famille. En revanche, je ne vais pas dire mon épouse ça encore. Merci El Fabinho, merci Shadox, merci pour le soutien. Merci Shadox pour le 42e mois. En podcast. Merci Lemming67. Merci Shaizu. Merci Neferim. Pardon, j'avais pas vu les subs. Waouh. Merci. Attends. Olxa. Olsia. Attends, pardon, ça me fait penser au nom d'une joueuse. Oui, Valo, qui a joué à la RTS. Hein, je suis vieux, mais merci Naotech Team. Je vais vous remercier pour le raid dans un instant. Oui, que j'ai vu jouer. Et oui, c'est toi. Oh, oh, oh. Je suis sur ta chaîne. Attendez, et streameuse alors ? Merci. Comment je prononce d'ailleurs ? Attends, parce que comme quand je voyais ton nom, en fait, je savais pas comment je prononçais. C'est Olsa, Olsia ? Comment je prononce ? Je vais vous montrer la chaîne dont je parle à l'instant. Incroyable. Attends, je vais vous montrer. Je savais bien que ce nom me disait quelque chose. Olsa, Olsia ? Olsa, Olsia, me dit un des modos. On va laisser la principale intéressée répondre. Je vous montre la chaîne. C'est comme ça qu'on dit ? Olcha, Olcha, tout simplement. Je prononce bien. Vi ? Regardez. Et c'est l'une des compétitrices de ce week-end. Pour quel team, du coup ? C'était pas hier son sub, peut-être ? Ah, c'est il y a 14h ! Ouais, c'était il y a 14h, t'as raison. C'était un stream d'hier, un sub d'hier. Ah, je l'ai raté en vrai. Déjà, je vais la follow. Attends, je vous montre. Ouais, j'aurais voulu faire coucou hier. Attends, je vous montre. Je la follow déjà. Voilà. Ouh. Moon, Obo, SBS, félicitations. Belle aventure qui t'attend. Mais merci de ton message. GG, bravo pour ce que tu fais. Voilà. Ah ouais, c'était hier le sub, t'as raison, Sugar. Incroyable. Ah, j'aurais voulu la remercier. Et donc, mais attendez, mais moi je sais pas lire, c'était... C'est F9, ok, je me suis pas trompé. Mais Staram, Sier, Dobre, Grasse, merde. C'est quelle langue, bordel. Trop bien, en vrai. Donc il y a du Valo, hein. Il y a du polonais. Ah, mais c'était elle, la joueuse polonaise. Trop bien. C'était une des nationalités représentées. Ok, ben, trop bien. Et ben maintenant c'est follow, donc il pourrait y avoir du raid. Formidable. Alors, je m'en veux de Ah, je m'en veux de pas avoir capté hier quand j'ai vu le sub. Peut-être que je ne l'ai pas vu aussi. Ok, merci. Merci Naotech. Alors, je parlais de jolies chaînes. Merci Naotech pour le raid, c'est adorable. Naotech qui vous propose notamment, c'est une chaîne qui propose plein de choses autour de la tech, notamment une matinale tech tous les matins. Putain, vous bossez tôt, vous, hein. Vous bossez tôt quand même. Ah bah je me vois du coup parce que oui, bah oui, parce qu'ils m'ont raid. Hop, c'est ici, regardez. Naotech Team. Allez, follow cette chaîne en vrai. Naotech, groupe d'enthousiastes qui partagent leur passion des nouvelles technologies. Émission en direct sur Twitch, au pluriel, hein, comme notamment le mug. Le mug, c'est la matinale, non? Salut, comment je dis? Big Ben Boys? Merci pour le message. Comme le mug, votre résumé quotidien et matinal de l'actualité tech, c'est ce que je disais. Ou encore des émissions gaming, photo, react et tout. Excellente chaîne sur Twitch et sur YouTube. Ok, vous savez quoi? Je vais vous les pingler. Comme ça, vous l'avez en haut si vous voulez. Follow. Ils m'ont raid suite au mug, c'est ça? Merci Bartou. Voilà, je vous l'ai pinglé, vous l'avez là-haut, vous n'avez plus qu'à follow. Un petit clic. Hein. Il y a vraiment un oiseau tombé du nid ce matin. Peut-être parce que je ne me suis pas douché. Peu importe. Allez, je vous lis un petit peu, c'est mon bonheur du matin. El Famigno, merci encore pour ce 19e mois d'abonnement. Je m'en veux pour Ocha Ocha. Bon. J'espère que je la verrai bientôt dans le chat. Je remonte dans le chat pour. Voilà les messages que j'ai ratés. Salut Samu, à cause de toi, j'ai attaqué Valorant il y a 3 jours. Je ne sais pas si je t'aime ou je te déteste. Déteste-moi, Polar. En vrai, déteste-moi. Hein. Non, je ne suis pas douché, ouais. Je ne suis pas douché parce que j'étais en retard. Je voulais plutôt vous rejoindre. Ouais. Là, je me doucherai tout à l'heure. Je me doucherai en fin d'après-midi. C'est pas grave. Et puis, hier soir, je me suis fait beau. J'avais un dîner de boulot. Avec. Un truc un petit peu, comment dire, un petit peu institutionnel, quoi. Je m'étais fait beau, je m'étais pomponné et tout, donc je ferai ce soir. Attendez, je regarde. Un message. Twitch n'a pas d'odeur, heureusement. Hein. Heureusement. Hein. Sache que je me réveille avec toi quand mon père me réveille. Bah, bisous à ton papa qui veut chier en vrai. Tiens, regarde. Je crée du bonheur aussi. Tu peux en parler de ta réunion dîner? Non. Secret défense. Martin Bécile. Merci Ticlem pour le 26e mois. J'ai commencé Valo grâce à toi et je suis passé gold hier. Je vise le plat maintenant. Pouop, 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 pouop. Ah oui, je vous disais que... Donc là, je ne l'ai pas dit à mon épouse encore. Donc, je ne vais pas streamer pendant une semaine, la semaine à partir de samedi. Hein, je vais en vacances avec la famille. Mais je vais emmener mon PC portable. Ok, mon PC portable et un petit écran, je pense. Peut-être même pas, mais pas pour streamer. Pas pour streamer. Juste pour jouer à Valo, mais hors stream. Le soir, quand tout le monde dort. Quand tout le monde dort le soir, je vais pas streamer. Parce que faudra que je parle et tout. Mais je ferai du Valo, des petits DM et tout. Des petites enquêtes. En cachette. Chut, voilà. Donc rien, je... Ouais. Non, parce que j'ai compris que je... Bon, un, je suis pas bon, mais deux, je joue pas assez aussi. Samuel, tu ne dors jamais? Pas souvent, le pralo. C'est ça, les vieilles personnes, ça n'a pas besoin de beaucoup dormir aussi. Hein. Pierre P21, très bonne question. La réponse à ta question est dans le bot pour l'exclamation Hebdo, H-E-B-D-O. Hebdo. Tu sauras tout. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'hebdo Étienne sans jamais oser le demander. Salut le Nuanda, merci pour ton message. Vous êtes bien curieux le chat. Oui Camille, je suis d'accord. J'en profite pour te demander comment fais-tu pour être aussi beau? Quel est ton secret? Big Ben Boys, ce n'est pas beau de mentir. Mon secret ce matin, c'est de ne pas avoir pris de douche. Salut Melissa Queen, trop bien, le don du sang, c'est beau ça. Bonjour Sam, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Je vais faire une intervention aujourd'hui dans mon collège, où tu étais toi, pour le don du sang, 2 classes de 6e. J'ai hâte car c'est important, je vais revoir mes anciens profs de collège, ça va être drôle. GG. T'as abandonné les chipots le matin? Alors, normalement, les chipots, c'est un secret que je ne partage qu'avec les abonnés. Hein, c'est vrai que mon secret beauté, ma routine beauté du matin, mon skincare, c'est les chipots. Voilà. Les chipolatas. Le matin au petit-déj, trempé dans hier le café, aujourd'hui le thé. Mais ça, c'est un secret que je ne partage notamment qu'avec les abonnés, donc je ne voudrais pas trop en parler. Voilà. Chipot en massage, ça, c'est un secret. Et le whisky chaud, bien sûr. Sacha Nénette, demain, je ne prends pas de douche non plus pour voir si ça marche. Je m'excuse d'avance auprès des proches de Sacha Nénette, qui va sentir fort demain. J'aime, j'aime. Les chipolatas, c'est dans le nez en cas de rhume. Les chipolatas, ça sert à tout. Britoc, je suis sûr que ton papa est fier de toi. GG pour tout ça. On fait comment pour les chipos si on est temporairement plus abonné? J'attends mon prime, John Gross. Je t'enverrai toutes les infos et les visuels sur le secret des chipolatas en DM. Eh ouais. Ah, Moulbit, en vrai, une petite galette saucisse le matin. La galette saucisse à la rennaise. Saucisse chaude. Galette froide. Je ne te pensais pas du genre à chipoter comme ça. Ça se valide, I'm fast. Ça, c'est voilà, ça, c'est l'humour que j'aime. Chipoter. Ok. Pop, pop, pop. Ouais, c'est beau. Bonjour, pas de douche égale cheveux brillants. Merci Jean-Michmich24 pour le prime. Salut, Lubano. Salut, monsieur Dodo. Chapi chapeau, Tagala. Chapi chapeau. Oh, obligé. Les plus jeunes, vous ne savez pas de quoi nous parlons. Chapi chapeau. Vous ne savez pas de quoi nous parlons.
Cherchez une voiture de.
Non, je ne cherche pas une voiture d'occasion, YouTube. Je veux vous montrer Chapi chapeau. Les plus jeunes n'ont pas la ref. Et nous, on l'a parce qu'on est vieux. Et on va la partager avec vous. Chapi chapeau. Comment dire? Bah, c'était un rendez-vous pour les enfants, il y a longtemps. Et pas Internet à l'époque. Mais par contre, on n'avait pas Internet. On n'avait pas Twitch. Mais on avait ça. Hop, c'est reparti! Pa 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 pa. Ces deux petits personnages, Chapi et Chapeau, qui évoluaient dans un univers de cubes colorés, c'était censé, je pense, apaiser et faire rêver les enfants. Et moi, ça me stressait beaucoup, ces histoires de cubes, là. Je pense que c'est parce que j'ai jamais aimé la géométrie. Voilà. Et en fait, ça me stressait, je ne sais pas pourquoi. Je trouvais ça bizarrement assez anxiogène. Est-ce que c'était la musique? Est-ce que c'était. Pas le perso, les persos étaient OK. Mais tous ces cubes colorés, là. Voilà. Ah, A7. Un peu flippant. Ouais. Rimekti, directement venu de l'enfer, tout simplement. Vous aussi, ça vous angoissait? Merci, Tantris, pour le 15e mois. Ouais. Un peu les Télétébises avant l'heure, ouais, mais des Télétébises dark, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, il y a un truc bizarre. Ça a mal vieilli? Non, bah, déjà à l'époque, c'était comme ça. À l'époque, on trouvait déjà ça étrange. Moi, je trouvais ça, enfant, ça me stressait un peu. Je restais, mais j'étais pas fier, j'étais pas sûr de moi, en vrai. Chapi, chapeau, palo. Chapi, chapeau, pala, chapeau. 70, 80, années 80, ouais, début des années 80, quoi. Pika, pika. Ouais, super bizarre. Pif Gadget, bien sûr qu'on avait Pif Gadget. Bien sûr qu'on avait Pif Gadget. Bien sûr qu'on avait le coutelas de Rahan, le fils des âges farouches. Un truc comme ça, non? Rahan. Hein? Le coutelas en ivoire slash plastique. Pa-da-pa-pa. Rahan. Non, pas le fils de Crado, le fils de Crao, je crois. Quelqu'un qui écrit Rahan, le fils de Crado. Non, c'est pas parce qu'il a été en. C'est parce que c'est un homme préhistorique qui était dégueu. Rahan, fils. Déjà, c'est fils des âges farouches, déjà. Voilà. C'était Crao, je crois. Pas Crado. Attends. Alors, il est où C'est les. Crao le sage, ouais. Ouais, Crao, pas Crado. Regardez, Crao, bordel. Fils de Crado. Mais tout ça parce que le mec était en slip, en peau de bête, là. Ah. Ah oui, c'est vrai, si tu confonds avec Pumba, ouais. Ça, c'était bien, ça. Ça, c'était bien, ça. Ah, les plus jeunes, vous n'avez pas connu ça, vous. On n'avait pas Internet, mais on s'emmerdait pas, hein. On avait Pif Gadget et on avait Chapi Chapeau. Putain, c'était il y a presque 50 ans, je m'en souviens, quoi. Ouais, je peux pas oublier ça, quoi. Waouh. Wow. Maintenant, trop tard, vous l'avez dans la tête pour la vie. 50 ans après, je m'en souviens. C'est foutu, vous êtes foutu. Merci Samuel, mon fils est en train de chanter Chapi Chapeau. Les loups, vous savez qui? Oup, 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 oup. Tu sais quoi? On va le remettre pour que tout le monde l'ait bien en tête. C'est pour ta fille. Les enfants, écoutez bien. Mettez-vous ça dans la tête. Voilà. Et chantez ça à vos proches, à vos parents, à vos amis, à vos profs, dès que vous pouvez. Et là, ça part en symphonie, là. Na, 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 na. Pata, pata. Trop stressé, moi. Y a pas de raison qu'il n'y ait que notre génération qui ait souffert de ça. Donc maintenant, voilà, je vous le lègue, je vous le passe, vous faites ce que vous voulez avec ça, quoi. Tin, 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 tin. Tin, 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 tagada. Tin, 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 tagada. Ça va, Lilou, vous savez qui? Ah, c'est pas ton fille, c'est ton fils, pardon, Lilou, excuse-moi. Je m'excuse, pardon, j'ai lu trop vite. J'avais lu fille, mais c'était fils. Sam, les deux chats en pâte à modeler, je suis sûr que tu t'en souviens aussi. Je crois Krakoukas, mais on va pas aller chercher tous les bangers de l'époque. Les Shaddock. Ah, Shaddock, c'est encore plus ancien, ça. Pa, 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 pa. C'est glauque de fou. Non, c'est pas glauque. C'est juste que les mecs, ils avaient pris. Les mecs qui faisaient ça, ils étaient sous LSD non-stop, quoi. H24. Donc forcément, ils voyaient pas la vie comme nous, quoi. Ils voyaient la vie un peu très, tu vois, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de polygones tétraèdes de couleurs. Tu vois, ça c'est le LSD, ça c'est une autre époque. C'est plus comme ça maintenant. Ne croyez pas que les mecs, vous croyez pas que les mecs qui ont pensé ça étaient à jeun, quoi. Bah ouais. Ouais, c'était Champy et compagnie, ouais. Ah. JDG dit ça parfois. Les développeurs, ils ont pris de la drogue, j'adore. As-tu des conseils, Samuel, pour éviter les amours non réciproques qui font souffrir? Bah ouais, de les éviter. Ah oui, ouais, l'amour, il faut que ce soit réciproque. Ouais. Donc, à partir du moment où vous percevez que ça ne l'est pas, on l'évite. Ouais, c'est pas très... voilà, pour le coup, là, le conseil, il est assez simple. Hein. C'est mieux pour tout le monde, hein. Pour toi et pour l'autre personne aussi, par ailleurs. Si, y a plein de gens qui peuvent te correspondre. Quel est l'intérêt de bloquer sur une personne qui n'a pas le même sentiment, quoi. Ta 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 ta. Merci David. Ta ta ta. Pam pam pam. As-tu des conseils, Sam, quand t'as un taf que tu n'aimes pas? Namo, tu le quittes. Mais Et j'ajoute aussitôt, parce que je vous connais dans le chat, oui, c'est facile à dire, plus facile qu'à faire, etc. Et j'ajoute aussitôt, tu le quittes à compter du moment où, évidemment, par ton investissement, tes recherches intensives, tu as trouvé le coup d'après. Eh oui, traverser la rue ne suffit pas, comme quelqu'un a voulu nous le faire croire à une époque. Donc, à partir du moment où tu te sens pas bien dans un taf, tu mets toute ton énergie, tout ton investissement pour trouver le coup d'après, le job d'après. Voilà. Et ça peut prendre du temps, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Moi, ça m'est arrivé d'être dans une situation pour. Et de mettre littéralement 4 ou 5 ans pour trouver le coup d'après. Donc ça ne se fait pas comme ça. Tu ne quittes pas un job comme ça. Mais tu vois, tu et puis et le jour où tu trouves le plan B, le coup d'après, tu pars comme un prince. Voilà. Hein, le travail ne doit pas faire souffrir. Namo, je suis engagé pour un an. Si je le quitte, je risque d'avoir des pénalités. J'ai zéro plan B pour une autre solution en vrai. Le plan B, ça se cherche. Ça se cherche. Un an, en vrai, c'est pas si long, en fait, hein. Surtout si tu t'occupes à chercher le goût d'après. Parce qu'il est toujours plus facile et confortable de chercher le job d'après quand tu travailles. Hein, tu es plus désirable. Hein, pour le futur employeur, tu es celui qui va quitter un emploi, donc des gens qui te veulent, qui te font travailler, pour un autre, pour une autre aventure qui est la sienne. Donc, tu es beaucoup plus désirable, alors que si t'es parti sans rien, c'est un peu plus compliqué, quoi. Sopanin, il faut traverser la rue apparemment. Alors, Sopanin, tout le chat a fait la blague il y a à peu près 5 minutes. Voilà. Peut-être que tu tapes trop lentement au clavier. Ou que tu viens d'arriver. Ou que tu étais parti faire autre chose. Ah, merci. Amfast dit, en tant que recruteur, écoute-le. Il y a Amfast qui est recruteur qui dit, il dit pas que des conneries, papy, là. Non. Stéphane Electron qui dit que c'est comme en couple, on a toujours plus d'occases en couple. Non. Alors ça, je ne valide pas. Hein, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, il y a quelques minutes, je ne voulais pas lire ce message, je suis obligé de le lire maintenant. Est-ce que ça marche aussi dans les relations amoureuses? Je ne veux pas cautionner ce genre de philosophie. Et Stéphane Lectrion me dit, comme en couple, on a toujours plus d'occases en couple. Non, 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 gratin de courgette, merci pour le soutien, merci pour le 6e mois, Zobin, merci pour le Prime. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, vous ne comparez pas quand même l'amour au monde du travail. C'est ouf ça. Samuel, en parlant de métier, est-ce que tu as des conseils pour un étudiant qui regrette son choix pour le bac à Bibi du 73? Regarde MVP. Tout. Deux fois par mois, le mercredi à 18h, j'ai une émission sur Twitch qui s'appelle MVP, Ma Vie Pro. Il est où moi, le Twitter de papy? Ma Vie Pro, qui explore les voies professionnelles pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard, ou ceux qui ne sont pas bien dans leur travail du moment. Bim, mercredi, 18h, avec Marie Ballot, avec Mimi Hegel, avec Ludovic B, avec notre invité, l'humoriste que j'adore, David Castello-Lopez. Hein, eh bien, on va parler notamment de ces métiers qui n'ont pas forcément une super image, hein, qui font pas rêver et pourtant qui peuvent être des super métiers. Voilà, hein, les idées reçues des métiers. Voilà, genre comptable, exemple. Hein, genre, ah ouais, comptable, ouais. Eh ben si, comptable, ça peut être un métier incroyablement cool si c'est ça que tu as envie de faire. Hey, ouais. Et on va parler de ce genre de métier, quoi. David, il a eu 1000 vies en plus, c'est vrai, Lucas Delucky. Voilà. Donc MVP, c'est sur cette chaîne Twitch.
Oui.
C'est peut-être marqué là, regarde. Twitch.tv/Samuel Etienne. Samuel Etienne, c'est moi. Voilà. Mais Sam, il est où ton gilet? C'est l'hiver, je suis en pleine forme, Ragnok. C'est le chat qui me réchauffe. Ouais, effectivement. Merci, Brainwasher. Notre dernier invité, c'était Manu Payette. C'était trop. C'était top, top, top. Je suis un ex-comptable, c'est chiant. Je me suis sauvé dès que j'ai pu. Ça m'a pris 5 ans quand même. Romrom, SAV. Ouais, mais moi, je connais des comptables. Et j'ai connu des comptables qui kiffent leur métier, quoi. Voilà. Voilà. Le chat ou le whisky show? Le chat. Tiens, regarde, Romain, ma compagne veut se reconvertir pour comptable. Elle va regarder ton émission. Romain, mais on va vraiment parler mercredi, hein. C'est pas des blagues. Voilà, mon beau-père est expert comptable, il vit sa meilleure vie. Diesel. Moi, ma maman était comptable. Elle kiffait son métier. Harmonie nous dit Hello, j'ai pas le son, je suis en cours. Attends, tu lis sur les lèvres, Harmonie, ou pas? Hello, Harmonie. Hello. Oh, non, non, je vais faire dans le chat. Hello. Ar. Bon. C'est mieux. Voilà, c'est bon. Je l'ai écrit là ou pas? J'ai réussi? Je ne vois pas mon message. Ah non, je l'ai pas mis. Là, c'est bon. Voilà. Je commence à me reconvertir gestionnaire de paie, j'espère que c'est le bon choix. Bah déjà, Ticapi, pour au moins tu es sûr que ta paie sera virée à la fin du mois, quoi. La tienne, je veux dire. C'est déjà pas mal. Il y a Zedoun qui dit, par contre, moi je croyais qu'il y avait cours aujourd'hui. Et en fait, je me suis trompé, c'est demain. Je suis venu à l'école pour rien. T'avais vu les gestes, Harmonie? Et donc, et bah non, bah c'est cool en vrai, ça va être une petite journée tranquille devant toi. Bon, peut-être un petit peu de transport, quoi. Jean-Mich-Mich, quelles études pour te remplacer, Samuel, à la retraite? Je compte venir dans 10 ans. Je te laisse un peu de temps. Ok. Quelles études? Il n'y a pas d'études. Faut juste que tu kiffes ce que tu fais, en fait. Musée où je taffe dans le premier cabinet de France de comptable en tant que responsable depuis 2009. Toute ma carrière, je kiffe trop. Bah voilà. Ah, t'es sûr. J'ai raté mon BEP comptable en inversant les débits et les crédits, sinon tout était juste, me dit John Tou. Débit, crédit, pas, hein? Pas si grave. Je pense que c'est une vanne. J'adore. Débit, crédit, ouais, c'est un peu pareil comme dit SDF. Ouais, c'est pas. Débit, crédit. Ce que tu dépenses, ce que tu rentres, ouais, c'est pas. Est-ce que c'est vraiment différent? Ils sont durs, hein, les examinateurs. Merci GTP Colin pour le 6e mois. Merci Christophe pour le 11e mois à l'instant. MQRX. Rix, je suis conseiller en insertion pro, je vais faire passer l'info de l'émission Jeune que j'accompagne, c'est trop gentil. T'as tous les replays sur la chaîne YouTube de MVP aussi. Ouais, c'est juste une colonne, c'est un changement de colonne, ouais. F, c'est un peu comme dire j'ai raté ma recette de cuisine, j'ai confondu le sel avec le sucre, mais sinon je l'avais. Oui, on avait compris, c'était une vanne, je pense, F. Merci. C'est F qui vient de comprendre en fait la vanne, je pense. Je kiffe, je kiffe. Ok, je cherche le lien entre les deux infos. Il y a Jenny dans le chat, Jenny7 qui vient d'écrire, j'ai passé 20 ans à m'occuper d'enfants. Écoutez bien, hein. J'ai passé 20 ans à m'occuper d'enfants et maintenant je suis monitrice dans un stand de tir. Je cherche le lien entre les deux infos là. En fait, ça. Hein? Oui, c'est hein? Ouais. Justement, c'est pour appuyer le truc, me dit AI. Oui, mais en fait, tout le monde avait compris, en fait. C'est genre, Yves, c'est un peu c'est le médecin qui passe après le premier médecin. Le premier médecin, tu viens de te péter la jambe, il touche la jambe, touche la jambe, et il dit, c'est là que vous avez mal, il fait ah! Tu vois. Et il y a un deuxième médecin qui arrive et il rappuie au même endroit, tu vois. Et il dit, donc c'est là que vous avez mal, tu fais ah! Tu te dis, mais il est complètement. Voilà. Hein, tu nous as fait ça là à l'instant. Non, c'était pour appuyer. Bah oui, t'as bien appuyé, il a bien senti le gars. J'adore. Je me régale. Hein. Moi, j'ai pas envie de lire les journaux, j'ai envie de lire que le chat en vrai. Heuristique est très en colère. Bah désolé, hein. Je vous fais la voix que j'imagine. Mais moi, je connais beaucoup plus de gens qui subissent en lettres capitales leur métier plutôt qu'ils l'adorent. Alors, du coup, qu'il adore au pluriel, parce que tu as mis subisse au pluriel. Et dire que c'est une question de volonté et qu'il n'y a qu'à changer, c'est vraiment une réflexion de gros privilégié. Alors, privilégié, oui, gros, je fais hyper attention. Donc, ça, c'est pas vrai. Même si j'ai arrêté le sport, faut en avoir conscience. Samuel, est-ce que tu as la conscience? L'immense majorité des gens ne s'éclatent pas dans le travail, on le subit, et tout ce qu'on attend, c'est nos temps libres, nos week-ends, nos vacances. Ah, heuristique, déjà pas le physique, c'est pas cool. Bah moi c'est l'inverse, j'ai la chance de connaître plutôt des gens qui kiffent leur métier, voilà, qui est la succession de plein de trucs quoi. Et même si ça n'est pas facile, même si ça peut prendre des années, ça demande des montagnes d'investissement, de travail, de remise en question, de remise en cause, voilà. Ça n'est pas facile. Je pense qu'il est possible de trouver l'équilibre et le plaisir au travail. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je dis même que c'est très difficile. Et je dis aussi que la chance joue et que le hasard joue et que d'endroit d'où on est parti, l'origine sociale, même la région, les chances, tout ça joue. Donc je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible. Gros privilégié, c'est dur, hein. Heuristique me dit j'ai une voix plus grave que ça. T'as beaucoup d'humour, GG à toi. Ça c'est cool. T'es à ça de passer MVP. Oui, MVP. Ah, monsieur, ah, marrant, mon émission s'appelle MVP aussi. Ah oui, VIP. Je savais bien qu'il y a un truc qui allait pas. Ah ouais, non, pas, faut pas déconner, pas MVP non plus, quoi. Genre, voilà. Le mec a de l'humour, je mets MVP de la chaîne. Non, MVP de la chaîne, c'est moi. Donc VIP, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc vous êtes là. Non, 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 mais vous êtes trop en forme ce matin, c'est un bonheur de vous lire en vrai. Quelle heure il est, il est... Salut Brocoline! Ah, 36 minutes, non, faut que j'attaque la revue de presse là parce que non, je suis, non, non. Parce que j'adore, c'est mon plaisir, c'est de vous lire, mais à un moment il faut lire les journaux. Matt Delour, moi je suis pas VIP, je suis juste VIP. Trop mignon. Ouais, Théo, bravo à ton papa. On y va? Est-ce que j'ai votre go pour le sommaire de la revue de presse, c'est-à-dire l'essentiel de l'actualité en 4-5 minutes, et après on lit tout ça. Nanana, 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 nanana. Ouais, c'est un oui. Salut nos You Twitch, vive la flèche, vive la Sarthe. Nanana, nanana, nanana. C'est parti. J'ai une réunion en 10 minutes, tu peux nous faire ça avant le début de ma réunion, ce serait top. Namou, let's go, let's go. Hop, défi relevé, let's go. Qu'est-ce qu'on a ce matin dans la presse? C'est parti. Bon. Merde, où sont mes notes? Je les ai pas prises. Non, ne me dis pas que je les ai pas prises. Ouf. Les notes du matin. Voilà, tous les journaux, c'est parti. Ici, on lit Le Monde, Le Parisien, Libération, Le Figaro, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe. Pourquoi ces journaux alors qu'il y a plein d'autres journaux, régionaux, magazines, presse internet, presse indé, pourquoi? Point d'exclamation, RDP, revue de presse, bam, vous avez l'explication. C'est parti, je préchote les questions. La une du Parisien ce matin, c'est parti. Oh, j'ai eu peur. Non, c'est Musk, c'est bon. Non, il a un air sévère là. Administration américaine, le grand ménage de Musk. Des dizaines de milliers de fonctionnaires licenciés. Oh, ils rigolent pas. D'autres poussés à négocier leur départ, chargés par Trump d'alléger l'État fédéral honni détesté de ses électeurs. Elon Musk s'y attelle scrupuleusement. Ben, il a pas l'air de prendre ça à la légère. Ok, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Pourquoi a-t-il autant de pouvoir? C'est qui le monsieur qui est tout. Ah oui, c'est Trump. Voilà, c'est qui? Oh, c'est Tom Cruise. Non, c'est Elon Musk. Voilà. Et ça, c'est les petits ingénieurs tout jeunes là. Qu'ont moins de 25 ans qui travaillent pour lui et qui sont en train de licencier des combien? Combien licencient les petits jeunes là? Dizaines de milliers de personnes. Ok. Qu'est-ce que t'as fait après l'école toi? Bah moi j'ai moi j'ai fermé des services entiers, j'ai mis des gens à la rue et tout. Ouais, GG. Ok. Donc ça c'est le premier truc dont on parlera. On enchaînera avec le Figaro. Bam. Le Figaro, c'est la une du Figaro ce matin. Trump, guerre commerciale, Trump accélère et taxe l'acier mondial. Hein, il avait mis des taxes sur Mexique, Canada, tout ça là. Et puis finalement, hop, il a suspendu. On s'est dit, ok, en fait, c'était du flan. Bah, il remet une petite pièce dans le flipper. Le flipper, je vous expliquerai déjà, c'est un autre truc. Guerre commerciale, Trump accélère et taxe l'acier mondial, l'acier de tout le monde. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il taxe tout le monde. Le président américain continue de déployer sa politique protectionniste. Il a annoncé des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium importés, quel que soit le pays fournisseur. Everybody. OK. Donc on parle de Trump, on parle aussi ce matin, je vais très très vite parce que quelqu'un a une réunion dans 10 minutes, de Trump aussi, c'est dans Le Monde, page 6, l'extrême droite, les extrêmes droites. Ah, le Monde me fait tous les matins un petit truc bizarre, Le Monde a besoin que je reconnecte la tablette. Donc là, je suis en train de passer le firewall du Monde et regardez, 3, 2, 1, ça marche pas. Pouah! Incroyable, je suis un hacker. L'élection de Trump galvanise les extrêmes droites, réunit à Madrid les patriotes pour l'Europe, donc ce sont les extrêmes droites européennes, ont dit vivre la victoire de Trump comme une renaissance. Ils sont très heureux de Trump. Pourquoi? Bah, je sais pas moi. On essaiera de comprendre ça ensemble. Sale temps pour l'écologie européenne. Ah, là, on se lamente souvent ici sur l'état de la planète. Je n'ai pas des bonnes nouvelles à ce niveau-là. L'Union européenne qui s'était posée pourtant en leader mondial de la lutte contre le réchauffement climatique avec son Green Deal s'apprête à détricoter plusieurs de ses législations vertes au nom de la compétitivité. Désolé, c'est pas une top nouvelle. On l'enchaînera avec le handicap. Voilà, moi c'est une question que je trouve très importante. On ne fait pas assez hein, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il y a plein d'articles ce matin, parce qu'on fête les 20 ans d'une loi, et c'est l'humanité qui consacre son dossier le plus important ce matin à ces promesses non tenues de la loi handicap. Le texte de 2005, voilà pourquoi on en parle. 20 ans après, pour l'égalité des droits et des chances, n'est toujours pas effectif. 20 ans après le vote de la loi. Hein, faute de volonté politique et de moyens suffisants, laissant la part belle aux discriminations. Tout le monde en parle ce matin, il y a plusieurs articles, mais c'est la une de l'Humanité, il y a un gros dossier, je vous le lirai bien sûr. Après, je vous parlerai de la. Ah, ça m'intéresse, mais ça intéresse toutes les entreprises et notamment les petites entreprises. Bientôt, la facturation, là, tout ce qui est facture, là, tout ça, dépenses, recettes, ce sera électronique. J'ai pas bien compris ce que ça allait changer. C'est le bordel ou quoi? Page 9. Là, les petites entreprises devront bientôt payer pour facturer. D'ici à 2027, c'est dans pas longtemps ça, PME et micro-entreprises auront l'obligation de passer la facturation électronique via des plateformes privées. Mais sont-elles prêtes alors que la moitié des documents sont sur papier? C'est quoi ce truc? Merci Sorbet Citron 84, merci pour le 18e mois, merci la Mandalorienne pour le 30e mois. Ah ouais, c'est la revue de presse tous les jours en ce moment. Merci Néotis. Dématérialisation obligatoire bientôt, on est en train de le faire dans ma boîte. C'est bien ou pas ça? En gros, il y aura moins de papier. Ouais, enfin, il y aura plus de travail, non? Dématérialisation. C'est pour mieux gérer les entrées et les venues avec les entreprises pour réduire le black. Ah oui, j'avais bien compris que c'était pour bien surveiller tout ça, ouais. Voilà, il faudra un outil certifié pour faire signer les papiers, etc. Ouais. Oui, c'est pour éviter les fraudes, la Siron. Mais bon, est-ce que ça va pas donner plus de boulot, notamment aux entreprises, ça? Les petites, notamment. Facture obligatoirement faite depuis une plateforme en ligne, et c'est un coût aussi. Ouais, un coût, sauf peut-être des forfaits gratuits. Ça simplifiera le boulot à terme, t'es sûr, Rom Rom SAV, c'est ça ma question. Ouais. Ça permet un meilleur suivi des paiements? Ouais. Un peu, ouais. Ça réduira pas le black. Le black, t'as pas de facture, justement. Dit que ça mou. C'est pas faux, ça. Ouais. The only Lucu, GG à toi pour l'histoire du facteur. Tu as l'air fatigué. Insight, c'est son premier message sur la chaîne. Voilà. Alors, il y a les gens, ils arrivent sur une chaîne, leur premier message dans l'histoire de la chaîne, c'est Après, c'est bonjour, vous allez bien, heureux de vous rejoindre, comment ça va? Tiens, je voudrais témoigner d'un truc et tout. Inside, son premier message, c'est tu as l'air fatigué. Qu'est-ce que je fais de ça, quoi? Qu'est-ce que je fais de ça? Non, c'est ma tête. Voilà, je suis vieux, je suis moche, comme tu je te dis, c'est ma tête. Là, je suis plutôt même en forme ce matin. Ça fait plaisir, en vrai. Ah oui, j'épingle. Le mec, il arrive sur le stream et il dit, bah, en fait, t'as une sale gueule, en fait. Ouais. Ou c'est de la compassion. Ouais. Bon, je te laisse épingler. Bon, on parlera de cette manifestation. Vous maîtrisez plus cette sorte de facturation que moi. En fait, j'en parle pas du tout pour vous informer. J'en parle pour comprendre moi. Ça, c'est très égoïste. Ok. Est-ce que vous connaissez la célèbre expression bien misogyne, femme au volant, mort au tournant? Eh ben, en fait, c'est exactement l'inverse. Ha ha! Donc, il y a le bon vieux dicton misogyne et il y a la réalité des chiffres. La réalité des chiffres, page 11. Homme au volant, danger au tournant. Ha ha! Merci Kish Lorraine pour le Prime. Selon les derniers chiffres de la sécurité routière, ils sont responsables de 84% des accidents mortels en France. Voilà. Eh oui! Eh oui, voilà. Bon, ça c'est les stats, c'est irréfutable. Il y a autant d'hommes et de femmes qui conduisent en France. Voilà. Et alors, j'attends le commentaire dans le chat. On me dit, oui, mais en fait, oui, mais pour les petits accidents, la tôle froissée, c'est quand même les femmes et tout. Voilà. Eh ben non, même pas. Pour les petits accidents, c'est du 50-50 en gros. Voilà, hommes-femmes, pareil en fait. Voilà. Et par contre, pour les gros accidents bien lourds, quoi, c'est les mecs. Ouais, mais à 84%, quoi. Bon, on verra ça tout à l'heure. Je pensais que ça vous ferait réagir, c'est pas inintéressant. Oula. Et du coup, dans ce sens-là, c'est pas de la misogynie? Ben non, Gwistream, dans ses premiers messages, faut prendre son cerveau, faut l'allumer. La misogynie, c'est quand ça n'a pas de sens. C'est quand ça n'est pas factuel, quand ça n'est pas confirmé par les faits, que c'est un préjugé, si tu veux. Donc dire femme au volant, mort au tournant, le fameux dicton, qui n'a aucun sens, puisque c'est exactement l'inverse, c'est ce que nous disent les statistiques et les chiffres, ça c'est complètement misogyne, en plus d'être complètement con. Et donc là, c'est pas misogyne, c'est juste que les stats, en fait. Voilà. Guystream, d'autres questions? Alors, après, on parlera aussi de... De quoi? Homme au volant, danger au tournant, après c'est quoi? Ah, le rappeur dont vous m'avez parlé hier là. Il y a une page dans le Parisien. Le gars qui a couru combien là? 24 heures, non, c'est ça? Comment on prononce déjà? Riles. Voilà. Attendez, il y a une page entière dans le Parisien. Eh oui, une page, les gars. Quel phénomène ce rappeur? Bim! Riles a réussi un double pari ce week-end sportif en courant 24 heures pour promouvoir son album Survival Mode et médiatique. Il nous a accordé sa première interview. Voilà. Et hier, vous m'avez expliqué, c'est vous qui m'avez expliqué. Non, mais en fait, ce mec est incroyable. Il a une dimension artistique qui est étonnante. Il a un univers vraiment à lui. Et voilà. Et c'est pas un zozo, quoi. Et donc, bah voilà. Moi, je vais apprendre des infos dans cet article du Parisien et vous compléterez, quoi. Ok? Hyper intéressant. Riles. Une page entière dans le Parisien. Pas mal, hein? Bon, Cohen me dit, moi je le suis depuis ses débuts, il est incroyable. Eh ben voilà, moi je connaissais pas du tout. Ça en parle partout, même vu sur un journal japonais. Il y en a, ils lisent la presse japonaise, quoi. Eh, riche mère. La classe en vrai. Eh, ça c'est classe. Ça c'est classe. Moi, tu vois, là je suis. Ouais. Non, ça flex pas. Non, c'est juste que voilà, il y a des gens ici qui sont ouverts d'esprit, qui sont curieux. Bravo. GG. On parlera de Monsieur Riles. Il est marié avec une super photographe qui s'appelle Elisa Paron, que je suis depuis ses débuts, notamment au PSG. Ok. Attends, mais la photographe, elle est joueuse de foot aussi? Ou c'est Riles qui joue au PSG? Il est marié avec une super photographe qui s'appelle Elisa Paron, que je suis depuis ses débuts, notamment au PSG. Je ne l'ai pas là. C'est-à-dire qu'elle est photographe pour le PSG?
J'ai bugué.
Ah, elle photographie les joueurs au Parc des Princes. Ah, elle photographie des matchs. Ok. Il y a Broubou qui dit le I se dit I pour Riles. C'est Riles? Alors, ah bon? C'est Riles? Brocoline dit non. Brocoline, qui suit le chanteur depuis ses débuts, dit non, c'est Riles. Alors qui m'a donné cette fausse info? C'est Broubrou06, c'est un modérateur. Oh nom de Dieu, merde, putain, ça y est, mon monde s'écroule. Incroyable. Putain, je viens de le bannir. Je viens de bannir le modérateur. Pff, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. En plus, tu l'as dit deux fois, à 10h et à 10h02. Je te unban, bien sûr. Putain, j'ai cliqué où il fallait pas. Tu me l'as dit deux fois en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dit Riles, bordel. Je viens de ban mon modo. Je l'ai unban. Hein. Riles, dit Brocoline. Voilà. Désolé pour le ban. Hein. J'ai cliqué où je voulais pas. Hein. C'est des gros doigts. Ok. Comment ça, il a plus l'épée? Du coup, attends. Attends, du coup, il est plus modérateur? Merde. Oh merde, attends, je corrige ça tout de suite. Oh merde, maintenant je le remets tout de suite. Ah oui, parce que quand on banne, oh là 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 là. Comment ça, faut attendre 24 heures? Quoi? Attends. Quoi? Tu peux pas ban tes modos? Bah si, je viens de le faire. Si, je peux, mais faut pas que je le fasse. Merde. Attends, Broubrou. Oh non, j'ai honte. Modo à terre. Down. Communauté, gestionnaire de rôle. T'es où, mon Broubrou? Oh merde. Oh, fait chier. Il est où, Broubrou? Je t'ai. Je te vois pas. Ah bah non, mais non, t'es plus là. T'es plus modo. Oh putain, merde. Ajouter. Ah oui, t'es plus chez les modos. Broubrou 06. Je t'ai. Broubrou 06. Voilà. Modérateur. Attends, je te rajoute. Enregistré. C'est bon. Tu peux écrire un petit message. Normalement, t'as retrouvé ton épée. Tu m'écris un petit message pour Brou, pour m'assurer. Pour voir s'il y a l'épée. Test. BAM! Qui m'a dit il faut attendre 24 heures que je le banne pour fake news? Je suis le roi du... Ce matin, j'ai envie de bannir. Tu es de retour! Ok, bon. Ouh, ça fait peur. Attention, c'est peut-être aussi un modo. Peut-être bien. Je suis chaud ce matin. Ouais, désolé, Broubrou. Le Monde, 2 points. Demain en une, Samuel Etienne bannit toute sa modération. Let's go! Ok, donc ça, le rappeur, je vous en ai parlé. Et puis. Je crois que je finirai avec du football. C'est la une de l'équipe ce matin. Match de fou en vrai ce soir. Ouais. Merci Yacine Farch. Merci Soltex. Merci Le Croix-Roussien. Merci à tous les trois. Regardez-moi ça. Qui l'eût cru? Voilà. Ligue des Champions, play-off, allez. Quoi? Brest, PSG, vous rendez compte, nom de Dieu? Salut Brocoline, bonne journée. Le Stucru, j'ai la ref, Etienne. Ouais. Une belle affiche à ce stade de la compétition semblait inenvisageable. Une telle affiche, une belle affiche aussi, je trouve, en vrai, pour les Brestois, c'est incroyable. De surprenants Brestois reçoivent des Parisiens toujours invaincus en Ligue 1 cette saison. Est-ce que ça n'est pas beau? Est-ce que ça n'est pas beau? Voilà. Qui l'eût cru? Poulidor dit très mauvaise une, très mauvais titre. Tu trouves? Ça va, en vrai. L'armor ou la raison, ça veut dire quoi, ça? L'amour ou la raison? L'armor. Ça, c'est nul, par contre. Le PSG est le grand favori. Ça va être équilibré, ça. Ah, ça fait les malins, Mister Poco. Hein, et puis ça va pleurer ce soir quand Brest va gagner. Hein. Oh putain, oh là là, la team premier degré. Non mais Samuel, les Côtes d'Armor, Armor comme la Bretagne. Foutez de ma gueule ou quoi? Je suis breton. J'ai poncé les Côtes d'Armor, qui s'appelaient les Côtes du Nord avant. Puis un jour, ils ont eu marre d'avoir un nom qui sentait le froid et l'humidité. Ils sont rebaptisés les Côtes d'Armor, mais on n'est pas dupes, il fait toujours froid et humide là-bas. J'ai poncé tous les cafés, tous les bars, toutes les discothèques des Côtes d'Armor. Mais Samuel Larmor, putain, ma gueule ou quoi? Non, mais je trouvais juste que le titre était un peu naze, quoi. Larmor, l'amour ou la raison, tu vois, c'est un peu l'idée, quoi. Oh là là, c'est pas vrai, ça. La Bretagne, c'est pas vraiment la France en même temps. Je ne pas dans ce débat. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un match de fou, quoi. Vous pensez que Brest peut gagner ou pas? Vous pensez que Brest peut gagner ou pas? Le Monde, 2 points. Samuel Etienne insulte un viewer qui a mis en cause sa bretonnitude. Non. Tout est possible. Sur un match, ils peuvent le faire. Ils sont capables de tout. Ouais. Sur un aller-retour, ça paraît dur à la qualif, me dit ZZ. Sur, voilà, Stéphane Electrion dit la même chose. Sur 2 matchs, jamais ils se qualifieront sur 2 matchs. Ouais, c'est ça. Bah oui, sur un match, tout est possible. Ouais. Moulbit, jamais ils gagnent. Ouais, ça sent le supporter du PSG, là. La une du Monde, Samuel Etienne se lance dans les paris sportifs. Merci à Isiron. Bretonnitude, carrément, on est vraiment sûr. On est sûr de rien, ma grosse. Je ne lis jamais à la fin du pseudo parce que c'est too much, même pour moi. Yogo, cool. Merci pour le 4e mois d'abonnement. Merci Carole CGM pour le 38e mois. Merci Sinfarch. Merci encore Soltix. Tu supportes Rennes ou Paris? Moi, je suis rennais. J'ai même vu la victoire de Rennes en finale de la Coupe de France face au PSG au Stade de France, mesdames et messieurs. Eh oui. Eh oui. Ils auraient dû faire un jeu de mots avec le Paris-Brest, ça aurait été plus savoureux. Oui, ça aurait été original, oui. Le Paris-Brest, le gâteau. C'est vrai qu'à mon avis, je pense que personne, dans l'histoire du journalisme sportif, je pense que personne n'a fait la blague sur le Paris-Brest, le gâteau, à l'occasion d'un match entre Paris et Brest. Je pense que, effectivement, je vais écrire à l'équipe pour proposer ça, ce titre. Je vais le citer d'ailleurs. Je pense que personne n'y a jamais pensé. Ah, il y a Blastrodon qui me dit si ça a déjà été fait. Peut-être. Peut-être bien, ouais. Je me régale. Ok, bon, on va commencer la revue de presse. Ça va nous faire du bien. Si, je viens de faire mon masque kappa, Lawless. Regarde, sur le visage, on voit bien, je le fais. Ouais, dans ces cas, je reprends une petite gorgée de whisky chaud. Bon, on a fait l'intro, on a fait le sommaire, moins d'une heure de stream, on a fait tout ça. Je dis, c'est très très beau. On va peut-être y aller pour la revue de presse. Salut Touvi, je vais mettre mon switch, j'ai froid. Laurentel, point d'exclamation casque dans le chat. Ah bah ça y est, c'est fait. Et t'as toutes les infos. Merci Sugar. Ouah, comment ça, la braguette ouverte? Non, tu m'as fait. Oh putain. Ah merde. Okay, d'accord. Je me suis pas douché ce matin donc. Oh merde. Mais bien ouverte ou pas? Merde. Ouverte, bien ouverte ou pas? En général, c'est une blague qu'on me fait souvent. J'ai une crotte de nez aussi? Non, c'est pas vrai. C'est une blague qu'on fait souvent et en fait, je vérifie parce que je sais que c'est une blague et en fait, elle a été ouverte. Hein, c'est bien ouverte ou pas? Ou juste, on avait une fermeture éclair, quoi. Juste pour, ces, pour par rapport au replay. Si je cut le live, j'annule le replay. Samuel, t'as une tache sur ton pull. Non, c'est pas une tache, c'est un truc pour allumer. C'est un truc qui me connecte à l'univers. Si j'appuie là, je suis connecté avec l'univers. Titre du Monde. Point. Samuel Etienne montre sa teub sur Twitch. Allez, l'enquête. Nous avons enquêté. Allez, on parle de Musk. Parti. du paf à la poutre. Oh, Sugar, tu régales. Ok. On va parler de Musk un petit peu. Merci, Yogo Cool. Merci encore, Carole, CGM. Hein, on y va. Le grand ménage de Musk. J'ai vu, Alexandra. Merci pour la baguette ouverte. Merci beaucoup. Administration américaine, le grand ménage de Musk. C'est parti, la revue de presse. À 59 minutes et 40 secondes, on est tip-top. Et là, je rigole moins, là. Merci, Goodman officiel. Des dizaines de milliers de fonctionnaires licenciés, d'autres poussés à négocier leur départ, chargés par le président Trump d'alléger l'État fédéral honni de ses électeurs, Elon Musk s'y attelle scrupuleusement. Waouh. Lisons l'édito, peut-être d'abord pour commencer, de Frédéric Michel, petit apéritif. L'édito, c'est un article où le journaliste donne son avis. Garde-fou. Hop, je passe la luminosité pour mes yeux. Visionnaire, c'est certain. Mégalomane, on peut le dire. Impitoyable, les faits parlent d'eux-mêmes. Elon Musk a d'abord été présenté comme un génie qui veut changer le monde. Il a commencé à le faire bien avant d'être nommé conseiller spécial de Trump à la tête du département de l'efficacité. Le patron de Tesla, X ou encore SpaceX, a eu tout le temps d'expérimenter sa méthode et ses idées sur ses propres salariés. Du brutal. On sait que sa gestion des ressources humaines dans ses boîtes, c'est du brutal. Ça, c'est documenté. Hein. Maintenant qu'il est devenu le principal allié financier et idéologique du président américain, le champ des possibles s'est élargi. À l'image de celui qu'il sert, Musk veut s'affranchir de l'équilibre qui organise la séparation des pouvoirs. L'homme le plus riche de la planète souhaite donc moins d'État, moins de modération, moins de régulation. Ce que manifestement Peder souhaite pour la France, je cite, au moins Trump fait ce qu'il promet. Moins de tout ce qui entrave sa liberté et sa puissance. Nos vieux principes européens n'ont bien qu'à bien se tenir. Dans le même temps, il défend sans rire le règne du peuple avec un objectif, vaincre la bureaucratie et casser les règles qui freinent son action. Son intelligence le rend dangereux. Il a cette folie qui fait les succès quand on est businessman, mais qui inquiète quand elle touche à la vie publique. Peut-on gérer un pays, un État comme une entreprise? Je spoil. Non, bien sûr. Bien que non élu, Elon Musk peut aujourd'hui décider de suspendre ou licencier sans préavis des fonctionnaires et accéder à des informations privées de millions d'Américains. Qui dit mieux? Xavier Niel, fondateur de Free, grand patron français, a osé ce commentaire, de point ouvrir les guillemets, c'est le plus grand entrepreneur du monde et parfois peut-être un connard. C'est un mélange des deux, c'est ce que Niel a dit de Musk. Je crois qu'ils sont insultés d'ailleurs, tous les deux, par tweet interposé. Un mélange qui peut légitimement interroger et en aucun cas en faire un modèle. Tu ne souhaites rien, Peder. Alors pourquoi tu sembles satisfait qu'il tienne ses promesses? Parce que si c'est une promesse qui sent un peu le caca, est-ce que c'est bien qu'il la tienne? Tu vois ce que je veux dire? Comment il s'appelle donc? Donc c'est Niel et Musk. Ils ne sont pas engueulés les deux là? Figaro. Bam. Connard. Proxénète. Waouh! Elon Musk et Xavier Niel s'insultent par médias interposés. Sur son réseau social, c'est pratique d'avoir un réseau social en vrai. Le milliardaire sud-africain a répondu aux critiques de l'entrepreneur français formulées quelques heures plus tôt. C'est un échange d'amabilité qui n'est pas passé inaperçu. Cette semaine, deux milliardaires bien connus sont insultés par médias interposés. Le français Xavier Niel a dégainé le premier. C'était lundi sur France 2. Il a dressé un portrait mitigé de Musk. Côté pile, le plus grand entrepreneur du monde. Waouh! Côté face, il est un garçon que l'on peut qualifier de au minimum complexe. Je vais utiliser, a dit Niel, un mot difficile. Il est peut-être parfois un connard. Waouh! Il a des positions tranchées extrêmes, a aussi dit Niel, ajoutant qu'il est aussi dangereux pour ses paroles et ses propos parce que certaines personnes peuvent prendre ça au premier degré. La réponse de Musk n'a pas tardé. Réagissant sur son réseau social, donc X, celui-ci s'est moqué du passé judiciaire du milliardaire français. Ce mec a été envoyé en prison pour avoir été un véritable proxénète avec un groupe de prostituées. S'est-il moqué dans un message liké, blablabla, blablabla. D'après mes infos, Niel a été poursuivi pour proxénétisme en lien avec les activités qu'il avait dans le Minitel à l'époque. Et il a effectivement été condamné à de la prison, mais, et Moulbit le sait, parce que vous êtes des gens informés, pour abus de biens sociaux ou fraude fiscale, mais il a été relaxé pour les frais de les faits de proxénétisme, il y a eu un non-lieu. Donc, la phrase de Musk factuellement est totalement fausse. Ce mec a été envoyé en prison pour avoir été un véritable proxénète avec un groupe de prostituées. C'est complètement faux, pour le coup. Voilà. Il a fait de la prison, il en parle d'ailleurs tout à fait clairement. Mais pour. Ah bah oui, heuristique, bien sûr, un non-lieu ne veut pas dire innocent non plus, bien sûr. Bah, c'est une décision de la justice française. Et donc, s'il avait été condamné, tu aurais dit, oui, mais en fait, la justice peut se tromper aussi. Bah, après, on n'a pas fini d'échanger, quoi. Voilà. Donc, pour le coup, c'est factuellement faux. Voilà. Mais après tout, c'est du Musk, c'est Twitter. Donc, ça, on a l'habitude. Voilà. On continue. Parce qu'on s'est arrêté juste sur cet échange, mais évidemment, ce n'est pas tout ce qui nous intéresse ce matin. Voilà, donc ça c'est le petit édito. Mais maintenant on va aller voir les faits. Salut Chris, salut. Les Coast Killers de Washington, c'est quoi l'histoire? Des dizaines de milliers de fonctionnaires américains ont déjà été licenciés depuis l'entrée en fonction de Trump. Derrière les volontés d'économie affichées, ah, c'est pour un État moins coûteux, quoi, une bataille idéologique se dessine. Personne ne s'attendait à une prise en charge aussi rapide et brutale. En quelques jours, l'administration Trump a déjà licencié plusieurs dizaines de milliers d'employés. L'USAID, l'Agence des États-Unis pour le développement international, qui distribuait plus de 50 milliards de dollars par an d'aide humanitaire à travers le monde, a été le premier organisme à subir la foudre du nouveau gouvernement. L'agence a dû stopper du jour au lendemain. Ouais, c'est l'USAID, t'as raison. Merci, Massalia. Du jour au lendemain, toutes ces opérations aux quatre coins du globe, elle est désormais réduite à sa portion congrue. 300 personnes, il ne reste que 300 sur les 10 000 employés à la base. D'autres structures sont dans le collimateur, donc au-delà de l'USAID, l'Agence de protection de l'environnement, l'environnement, l'administration des services généraux, c'est un peu les RH hein, de l'État fédéral, hein. Et aussi le secrétariat, le département de l'éducation. L'éducation, c'est pas non plus un. Hein. Bon. Pour s'assurer de la bonne marche de l'entreprise, Trump a chargé Musk de piloter ses efforts de réduction des coûts. C'est sa mission. Le patron de Tesla et SpaceX en est un spécialiste. Lors du rachat de Twitter en 2022, il ne lui avait fallu que quelques jours pour renvoyer chez eux 80% des employés. 80% des employés. Voilà. En supprimant d'abord la modération, il y avait déjà très peu de modération sur Twitter, il n'y en a quasiment pas sur X. La modération. Musk a pris cette tâche très à cœur, aidé par un autre soutien du président, le dirigeant de fonds spéculatifs Peter Thiel. Il a rapidement constitué au sein du département de l'efficacité gouvernementale une petite équipe de jeunes, ça on en a parlé déjà, très dévoués, vite surnommés les Dodge Kids. On va en parler, il y a un petit éclairage sur eux. Ces jeunes garçons sont en grande expérience. Bon, oui, c'est pas leur faire injure que de dire qu'à 25 ans ou moins, ils n'ont pas une grande expérience. Arrivent dans des locaux, des structures ciblées, demandent et obtiennent l'accès au système informatique, font passer des entretiens sur le vif aux employés, genre, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est quoi ton poste? Ils se servent aussi de l'IA pour analyser le fonctionnement des services et trouver des sources d'économie. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup, Polo, pour le soutien. Une quinzaine d'agences fédérales ont ainsi été ciblées par cette petite équipe. On parle de 400 personnes. Hein. Waouh! Si vous voulez faire des économies en France, vous votez pour Nestart à la prochaine présidentielle. Vous allez voir, budgétairement, on va se redresser en 2-2, quoi. Une quinzaine d'agences fédérales ont été ciblées par cette petite équipe qui agit sur ordre direct de Trump, sans l'aval du Congrès. Objectif, réduire à néant le déficit abyssal de l'État fédéral américain, près de 2 000 milliards de dollars en 2024, sur un budget total annuel de 7 000 milliards de dollars. Elon Musk pensait pouvoir atteindre ce montant. Il est désormais moins catégorique et tape plutôt sur 1 000 milliards d'économies. Les Trusks vont tailler à la serre pour tenter de réduire le poids de cet État fédéral qui n'a pas toujours très bonne presse dans le camp conservateur. Derrière les objectifs d'économie, beaucoup attribuent à la Maison-Blanche la volonté d'affaiblir cet État fédéral, de le vider de sa substance via une purge sans précédent. Donc il y a le côté économie et le Parisien dit qu'il y a aussi un aspect bataille idéologique. Une bataille idéologique, pour l'interrogation, les services ciblés par le président concernent essentiellement les secteurs fustigés comme progressistes par Trump. Salut Hugo. Durant sa campagne, environnement, aide internationale, éducation. Un plan de départ volontaire a également été proposé à tous les employés fédéraux. C'est-à-dire que chaque employé fédéral qui veut partir, il peut. 8 mois de salaire offert en échange de leur démission et déjà 65 000 personnes auraient accepté ce deal. Voilà. Pour inciter le maximum d'employés à saisir cette opportunité, le délai avait été fixé au 6 février, donc quelques jours seulement de réflexion. Mais, en fait, la justice américaine est en train de s'opposer à pas mal des décisions. Ça me stresse, mon rideau est de travers. De Trump. Et il y a pas mal de décisions de Trump actuellement qui sont gelées par la justice américaine. Dans les prochains jours, je vous parlerai de ça. Ah, c'est mon fauteuil. Voilà. Donc, notamment cette décision-là. Et oui, parce qu'en fait, il y a des contre-pouvoirs dans une démocratie. Ça marche pas comme ça. Et ça, on en parlera dans les prochains jours. Il y a un article ce matin, mais je crois que je ne vous l'ai pas mis de côté. Un juge du Massachusetts a retoqué cette disposition et le délai a été repoussé. Le flou n'en est que plus grand. Elon Musk a-t-il agi en toute légalité? Dans une Amérique abasourdie par le choc de l'ère Trump II, les résistances sont faibles. L'opposition politique est encore traumatisée par sa défaite. Les syndicats ne disposent pas d'une voix suffisamment forte. Le seul grain de sable dans le mécanisme est donc venu des juges. C'est ce que je vous disais. Un autre magistrat de New York a interdit au Doge et à ses équipes d'accéder aux données personnelles et financières de millions d'Américains conservées au département du Trésor, soulignant la possibilité d'un préjudice irréparable. Les craintes sont en effet nombreuses. Au-delà de la fuite de données, certains se sont inquiétés du risque d'espionnage par les puissances étrangères. D'autres mettent en avant de potentiels conflits d'intérêts qui pourraient rapidement concerner Musk, qui est en business par ailleurs avec l'État américain. Chargé de décider de la légitimité de dépenses en matière spatiale, par exemple, alors que le principal client de son entreprise SpaceX est justement le gouvernement américain. Le gars est des deux côtés, c'est assez pratique. Beaucoup ont aussi souligné l'hypocrisie de la démarche. Tesla, entreprise d'Elon Musk, a réussi à ne payer quasiment aucun impôt fédéral ces dernières années. Donc c'est pas mal, ça je savais pas par contre. Donc le gars arrive pour faire des économies au niveau de l'État fédéral en disant que bon, tout ça c'est une banque de branquignoles et de paresseux. Et j'apprends que Tesla a réussi à ne payer quasiment aucun impôt fédéral ces dernières années, donc ne participe pas trop au soutien à l'action publique. Quoi. Ok. Ça, je ne savais pas ça. Bon, là, on a la réaction des fonctionnaires licenciés. Et là, on a un coup de projecteur sur ces jeunes. Ces Dodge Kids qui travaillent pour Musk et qui font ce boulot. Leur notoriété publique est inversement proportionnelle à leur pouvoir au sein de la première puissance économique au monde. Akash Boba, Edward Coristine, Luke Faritor, Gauthier Koch-Kilian, Gavin Kliger et Ethan Chautran, 6 jeunes ingénieurs de moins de 25 ans, travaille auprès d'Elon Musk au sein du DOGE, le Department of Government Efficiency, la nouvelle administration créée par Trump, pour s'abrer dans les dépenses publiques. Avec d'autres DOGE Kids et ou Muscovites, comme les a surnommés la presse américaine, ils sont déjà intervenus dans de nombreuses administrations et ont eu accès à certaines données sensibles. Le but, traquer les frais inutiles et autres dépenses liées au programme de diversité. Leur nombre, donc ils ne sont pas très nombreux, et leur profil était totalement inconnu jusqu'au premier scoop de la presse américaine. Ces 6 premières identités ont été révélées au début du mois de février par le magazine Wired. Merci. Merci beaucoup. Wired. Qui a épluché leur compte sur les réseaux sociaux. Ces 6 jeunes hommes ont pour la plupart travaillé dans l'entreprise de Musk avant et lui vouent une admiration sans borne. Voilà. Olivier Lascar, qui a enquêté sur Musk dans un bouquin, n'est pas très étonné par ce type de profil. Il y a une forme de constante dans le management de Musk. Il arrive à attirer dans son sillage de très jeunes ingénieurs, car il fait partie des rares personnalités à imaginer un futur complètement fou, décrypte-t-il. Parmi ses admirateurs déclarés, il y a toujours eu ce type de jeunes prêts à sacrifier beaucoup de choses et qui sont à un moment de leur vie où, à leurs yeux, seul le travail compte. Le plus âgé a 25 ans. Récemment, on le voyait sur son profil X, désormais inaccessible avec la casquette rouge trumpienne MAGA, Make America Great Again, et ne cachait pas ses opinions très pro-Trump. Par exemple, à propos des migrants, il écrivait l'an dernier, laissez-les tranquilles pendant quelques mois encore, ce sera beaucoup plus pratique de les expulser s'ils sont tous au même endroit, disait-il sur X, à propos d'un centre d'accueil de migrants qui risquait de fermer. Voilà. Olivier Lascar, qui a écrit sur Musk, dit à ses yeux, ces Dodge Kids ne sont pas forcément promis à un long avenir. Ils en sortiront essorés, seront vus comme des cartouches que l'on crame et qu'on remplace aussitôt par d'autres, anticipe-t-il. Voilà. Ok. Bon, voilà pour le profil de ces jeunes gens. Voilà pour l'actualité Musk. Après, si vous voulez aller plus loin, parce que je ne peux pas tout vous lire, page 4 dans le Parisien, vous avez un retour sur la manière dont Musk a géré ses entreprises sur un plan RH. Alors, efficace au niveau financier, mais sur un plan RH assez brutal. Et là, vous avez un éclairage sur sa page 4 dans le Parisien, si ça vous intéresse. Je sais, Ebco, on en a déjà parlé ici. Mais je ne répète pas tous les jours ce que j'ai déjà dit dans les revues de presse passées, sinon la revue de presse dirait 2 jours à chaque fois. Ça peut être sympa, une revue de presse de 2 jours, ceci dit, mais je vais mourir, petit Pinchot. Ouais, on en a parlé, Polo, de la passe d'armes entre Musk et Xavier Niel il y a quelques minutes, mais t'es arrivé juste après. De rien, Polo, et merci encore pour le soutien. Rien sur l'USAID. Flatulence, pareil, on en a parlé il y a 2 minutes, mais je pense que tu viens d'arriver. Il Scorpio 59, si Riley peut courir 24 heures, tu peux faire une revue de presse de 24 heures. Je sais pas. Par contre, j'ai déjà couru 24 heures. Et ça flex. Ça flex. Merci Korok 13. Merci Zokyo Lebeau pour le Prime. Ok. Donc ça, c'est pour Musk. Et on va parler de Trump. Pourquoi? Ah oui, sur la guerre commerciale. C'est reparti. C'est en une du Figaro cette fois. Ouais. Rien sur l'article du Monde qui banne un modo. J'attends Reaper. J'attends le. Non, c'est un autre Polo. Merci juste Alex pour le Prime. Guerre commerciale. Hein. Vous savez que Trump a suspendu les mesures de rétorsion commerciale, enfin de guerre commerciale contre le Canada et le Mexique. La Chine, je sais plus. Donc, on pensait que c'est peut-être que ça s'était calmé, apaisé, que c'était un petit peu du bluff. Et en fait, non, il relance avec autre chose, avec l'acier et l'aluminium. Natchapi, au moins Trump te donne du boulot avec toutes ses actus. Bah, c'est vrai qu'avant avant l'élection de Trump, il n'y avait pas de revue de presse et il n'y avait pas de journaux. Donc, ouais, remarque assez pertinente, j'avoue. Guerre commerciale, Trump accélère et taxe l'acier mondial. Le président américain continue de déployer sa politique protectionniste. Il a annoncé des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium importés, quel que soit le pays fournisseur. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde, enfin tous les producteurs d'acier et d'aluminium. Donc ça a été une annonce faite dimanche. Nouvelle phase de sa guerre commerciale. Donc ça c'est intéressant parce que ça peut impacter l'économie mondiale, bien sûr. Il a promis cette fois d'imposer des droits de douane de 25%, ce qui n'est pas rien. 25% sur l'acier et l'aluminium importés par les États-Unis, quelle que soit leur provenance. Le pays le plus affecté sera le Canada, décidément les pauvres, premier fournisseur des deux métaux. Le Mexique et le Brésil devraient aussi subir les conséquences de ces mesures. La sidérurgie européenne, qui est assez peu compétitive, nous dit le Figaro, exporte peu vers les États-Unis, bon, tant mieux, mais c'est quand même un quart de son marché, quand même. Bruxelles attend la confirmation et des précisions officielles avant de calibrer sa réponse, hein, d'éventuelles sanctions du coup européennes pour les États-Unis. L'Union européenne s'est dotée d'une nouvelle arme lui permettant de riposter avec force, mais un accord entre les 27 est nécessaire pour l'employer. Édito Gaëtan de Capelle du Figaro sur ce sujet. Ce n'est pas encore la guerre commerciale totale promise par Trump, mais on s'en rapproche à grands pas. Dès le lendemain de son introduction, le Canada, le Mexique et la Chine, c'est bien parce que le journaliste nous rappelle un peu ce qui s'est passé, avaient les premiers subi les foudres de la Maison-Blanche. À présent, tous les producteurs mondiaux d'acier et d'aluminium sont dans le viseur. Ils se verront appliquer des droits de douane exorbitants au moindre kilo de métal vendu aux États-Unis. En attendant, l'Europe prochaine sur sa liste, à qui Donald Trump a promis de faire rendre gorge pour combler le déficit américain. Cette croisade commerciale menée au nom des intérêts de l'industrie et des emplois, quelqu'un me demandait, mais pourquoi cette guerre commerciale? Au nom des intérêts de l'industrie et de l'emploi, c'est pour protéger en fait le marché américain, est très populaire aux États-Unis, mais il n'est pas sûr qu'elle soit très productive. Plusieurs études ont calculé que les mesures similaires mises en place lors du premier mandat de Trump, déjà, 2016-2020, y avaient sapé à la fois le pouvoir d'achat et la croissance. Trump avait déjà pris ce type de mesures lors de son premier mandat et ça avait eu un impact négatif sur l'emploi américain et sur la croissance. Un, ce sont les consommateurs qui paient le prix de ces surtaxes. Il y a beaucoup de produits que les États-Unis importent, voilà, et ces produits sont frappés de surtaxes, ils sont vendus plus cher, et donc ça baisse le pouvoir d'achat des consommateurs américains qui achètent ces produits. Deux, pas plus que quiconque, l'Amérique ne peut tout produire sur son sol, donc ça veut dire qu'en fait, les entreprises américaines qui ont besoin de produits importés pour produire des choses, leurs coûts vont augmenter également. Trois, le jeu des représailles. Ah bah oui, parce qu'après, les États visés se vengent, bien sûr. Pèsent sur l'activité économique et causent des victimes dans chaque camp. En un mot, si le protectionnisme assurait la prospérité, s'il protégeait les consommateurs et les emplois, ça se saurait. Cela posé, écrit le Figaro, il n'est pas imaginable que l'Europe encaisse des sanctions sans riposter. Elle s'est dotée depuis 2 ans d'un instrument anti-coercition lui permettant de déclencher une batterie de contre-mesures puissantes et ciblées, un bazooka dissuasif témoignant de la fin d'un certain angélisme. Longtemps, les Européens n'ont pas trop réagi face à ces taxes commerciales qui pouvaient frapper leur pays. On disait notamment qu'ils étaient très naïfs par rapport aux Chinois, c'est-à-dire qu'en fait, ils laissaient les produits chinois rentrer sur leur sol alors que la Chine est un marché extrêmement protégé. Et bon, manifestement, c'est un peu terminé. Mais qui suppose que les 27, aux intérêts parfois fort éloignés, s'entendent? Parce que oui, quand on est 27, il faut s'entendre à 27 pour affronter un Trump qui ne demande qu'à les diviser. Voilà. Par exemple, là, les pays qui ne sont pas producteurs d'acier et d'aluminium en Europe, ils vont dire bah, on s'en fout. Hein? Donc on ne va pas prendre de mesures. Et donc, en prenant comme ça, en décidant des taxes commerciales sous tel ou tel secteur, qui concernent pas tous les pays européens, ça peut créer de la division. Dans le nouveau monde du 21e siècle, fait de blocs antagonistes, la guerre commerciale qui vient a valeur de test pour déterminer si l'Europe a sa place à la table des grands. Merci Waria pour le 10e mois. Oh, t'as pas beaucoup loupé. Merci juste Alex SVP. Bonjour Claude Bellache. Merci Basile pour ton message, mais Basile nous dit les infos m'angoissent hyper fort de manière générale. Je trouve que la manière dont tu les prends, c'est très rafraîchissant et utile. Alors c'est très gentil, mais je ne sais pas comment répondre à ta question. Déjà, protégez-vous du côté anxiogène de l'information. Je l'ai dit rapidement hier, mais l'information, c'est vous qui choisissez quand vous vous informez. L'information ne doit pas s'imposer à vous. Virez les notifs de vos téléphones. Hein. Ouais, il vient de se passer ça, super important. Vous n'avez pas vous en foutez. Vous l'apprendrez 12 heures ou 24 heures plus tard en vous informant au moment où vous l'avez choisi. Ne vous laissez pas imposer l'actualité. Virez-moi les notifs. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous consommer 6 heures par jour des chaînes d'infos, acheter un journal de temps en temps, quand vous avez le temps, ça ira très très bien. Les notices de Samuel Etienne, oh, ça c'est que du bonheur, tu gardes. Voilà. Donc ne vous laissez pas imposer l'info. L'info, c'est quand vous le voulez. Déjà, ça, vous allez vous protéger du côté anxiogène de l'information. Deux, il y a des façons de présenter l'info. Les chaînes d'info, par exemple, en continu, qui vont vous faire croire qu'il se passe quelque chose d'important toutes les 5 minutes. Bah pourquoi? Bah sinon, vous n'allez pas la regarder. Hein. Si le matin, on vous dit pendant les journaux, bon, bah voilà, il se passe ça, mais c'est pas très grave, ou non, bah là, c'est calme en ce moment, ce qui est vrai. Il n'y a pas toujours des dingueries, bah, vous n'allez pas regarder. Bon, bah, c'est la mort de la chaîne. Donc, la chaîne d'info, elle a besoin de nous faire croire qu'il se passe des choses importantes non-stop. En vrai, ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, vous n'êtes pas obligé de consommer ça à haute dose. Moi, je connais des gens, notamment des personnes âgées, qui regardent les chaînes d'info en continu, genre toute la journée, genre ou des heures. Non, non, ne faites pas ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, protégez-vous, informez-vous, c'est très important, mais à des doses que vous choisissez. Voilà. Et puis après, il y a les médias qui en rajoutent dans l'anxiogène, hein, qui finalement jouent sur, en mettant en avant des infos qui sont très anxiogènes, qui font très très peur. Parce qu'en fait, ben, nous, elles nous interpellent, on a envie quand on voit ça, on dit, ouais, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi cette dinguerie? Alors, méfiez-vous de ces médias qui surjouent la dramatisation de l'information, quoi. Voilà. Donc, mais je réponds très partiellement à ta question, mais en gros, c'est l'idée, quoi. Voilà pour la guerre commerciale. Le Figaro propose plusieurs pages sur le sujet. 19, 24, 25, on y va. Voilà. Donc là, vous avez un dossier. Page 19, page 24 et 25. Voilà. Donald Trump étend sa guerre commerciale. En vrai, le petit édito qu'on a lu nous donne un petit peu l'essentiel. Voilà. Mais là, ça va un peu plus loin, quoi. Je regarde juste un truc. Ok. Voilà. Donc si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, Le Figaro, les amis, qui prend le temps ce matin de se pencher là-dessus. Durant la guerre froide au max de son prime, mes grands-parents ne vivaient pas dans la peur. Bah oui, parce qu'il n'y avait pas... justement, les médias ne pouvaient pas s'imposer à eux. Hein. Tes grands-parents, ils s'informaient quand ils achetaient le journal ou quand ils décidaient de se mettre devant le JT, mais à un moment choisi, quoi. Hein. Ils n'avaient pas, effectivement, les notifs, ils n'avaient pas ces médias qui bah, vous submergent et vous abreuvent d'informations, quoi. Donc, je ne crois pas qu'on vit une époque forcément plus compliquée que pendant, par exemple, la guerre froide ou pendant des moments de crise que nos aïeux ont pu vivre, mais c'est juste qu'on a le sentiment, ce sentiment de anxiogène, d'insécurité sur tous les sujets économiques, sociaux, environnementaux. Bon, sur l'environnement, pour le coup, il y a un vrai sujet. Mais et accentué par le fait que les médias s'imposent à nous, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous protéger un petit peu. Alors, la guerre commerciale, et on va lire aussi. Ce matin. Ah, Trump. On va pas faire 100% de la revue de presse sur Trump, mais un dernier truc. Comment les extrêmes droites européennes, les extrêmes droites de tous les pays d'Europe, se sentent galvanisées, c'est un papier dans Le Monde, par l'élection de Trump. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, page 6. L'élection de Trump galvanise les extrêmes droites. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Réunis à Madrid, les patriotes pour l'Europe, donc c'est la réunion des extrêmes droites européennes, d'après ce que je comprends, ont dit vivre la victoire de Trump comme une renaissance. Pourquoi? Pourquoi? Une forme d'exultation, d'euphorie régnait dans l'auditorium d'un hôtel excentré de Madrid, près de l'aéroport, où une... Ah ben je crois que je vois où il est cet hôtel. Où une dizaine de dirigeants de partis d'extrême droite européens s'étaient donné rendez-vous samedi. Voilà, c'était le premier sommet du nouveau groupe des patriotes pour l'Europe. Ce mouvement, créé au Parlement européen en juillet 2024, autour du Premier ministre hongrois Viktor Orban et du RN, réunit 86 eurodéputés. Le slogan choisi, Make Europe Great Again. Ça, c'est. Je ne vois pas pourquoi les gens voient un lien entre
entre ces extrêmes droites européennes et Trump, Make Europe Great Again, c'est totalement inventé, c'est totalement original. Je ne vois pas du tout à quoi ça pourrait faire penser. Donc là, je trouve que le journaliste va très très loin. Hein. Je crois que personne n'a pensé à ça, quoi. Ils sont pas foulés. Hein. Ah bah si, faisait directement référence au Make America Great Again. Ah bah oui. De Trump. L'ombre de la victoire du républicain a plané sur l'événement. Tous les dirigeants présents ne partagent pas la même admiration pour Trump que celle manifestée par le chef de file du parti d'extrême droite espagnol Vox. Alors, Santiago Abascal, lui, il est fan. Il dit que Trump, c'est un compagnon d'armes dans la bataille pour le bien, pour la vérité, pour le bon sens, pour la liberté. Okay. Matteo Salvini, l'Italien, vice-président du Conseil, lui aussi, il aime bien Trump. Il dit que Trump a montré que la révolution du bon sens est possible. Voilà. Marine Le Pen. Ah, qu'est-ce qu'il dit, Marine Le Pen? À un moment, il faut voir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Milei, Trump, Orban, Meloni, notre parti allié autrichien est en tête, nous sommes en tête, nos amis flamands sont en tête, il faut analyser cela, je crois que c'est une forme de renaissance à laquelle on assiste, a déclaré Marine Le Pen. Sur scène, la leader du RN a appelé à ce que le bouleversement mondial que suppose la victoire de Trump sonne le réveil du vieux continent. Pourquoi elle trouve que c'est une bonne nouvelle? Explication, Victor Orban, la tornade de Trump a changé le monde en 2 semaines. Hier, nous étions les hérétiques, aujourd'hui, nous sommes mainstream. Les gens pensaient que nous représentions le passé, aujourd'hui, tous voient que nous sommes le futur. A lancé Victor Orban. Qui s'est félicité d'avoir, dans son pays, la Hongrie, fait de l'immigration illégale un délit. Alors l'immigration illégale, par définition, à la base, est illégale. Je crois que c'est la définition du mot illégal. Mais peu importe. Interdit la propagande de genre dans les écoles, fait inscrire dans la Constitution qu'un père est un homme et une mère une femme. C'est dans la Constitution, ça je savais pas. De la Hongrie. Dans la Constitution, ils ont mis ça. Un père est un homme et une mère est une femme. C'est dans la Constitution de la Hongrie. Okay. Et que tous les pouvoirs de l'État doivent défendre la culture chrétienne. Elle est cool, la Constitution de la Hongrie. Bon, je ne lis pas tout l'article. Vous irez vous faire plaisir dans le monde. Au fil des discours décomplexés lors de ce sommet à Madrid, des différents leaders, malgré leurs divergences, ne sont pas d'accord sur tout. Hein. Des grands thèmes, des obsessions partagées se sont dessinées. L'opposition à l'immigration dite massive, le rejet du pacte vert européen, la défense de la souveraineté nationale, la critique du wokisme et du globalisme. Les références aux premières décisions de Trump n'ont pas manqué. Le chef de file du parti d'extrême droite portugais, Chega, a clamé qu'il n'existe que 2 genres, hommes et femmes. Les nouvelles technologies commencent à collaborer avec la bataille pour la liberté, s'est félicité Santiago Abascal dans une allusion au ralliement de Musk ou de Zuckerberg à Trump. Ok. Page 6 dans Le Monde. Je vous lis. Merci de Tanuc. Merci mon gâtre TV, j'ai vu ton 39e mois. Merci beaucoup. Merci Alphonse Hippocampe pour ton prime. Merci Flabd pour ton soutien. Merci Waria pour le 10e mois d'abonnement. Merci à tous. Je vous lis. AEBCO, info pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir accès à la presse, c'est une bonne info. La BNF, la Bibliothèque nationale de France, vous donne un accès gratuit si vous êtes demandeur d'emploi, RSA, handicapé et d'autres situations. Il n'y a pas pour les étudiants aussi? Merci King pour le Prime. Ah, pour les étudiants aussi, me dit-on. Okay. Okay, je crois, hein. Il y a un truc aussi. Allez voir sur le site de la BNF. Sinon, il y a les médiathèques, effectivement. Merci Luluzark. En tout cas, c'est une vraie bonne info. Alors, en tant qu'étudiant, via nos bibliothèques et Europresse, on a accès. Ok, top. Trop bien. Trop bien. Voilà. Bon, voici pour une grosse page Trump. Voilà. Bon, quelqu'un me disait, mais comment ça se fait qu'on parle autant de Trump aujourd'hui? Bon, bah, c'est le président de la première puissance mondiale économique et militaire. Merci Quentin, bisous à ta maman. Et par ailleurs, bon, bah, il est en train de, il a une politique assez radicale et donc qui mérite qu'on s'y intéresse. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement des questions qu'on peut se poser aussi dans nos pays européens ou en France. Hein, c'est des débats qu'on peut retrouver aussi dans notre pays avec des gens qui pourraient souhaiter, on vient d'évoquer les partis d'extrême droite, et marcher sur cette même voie. Aussi, voilà pourquoi c'est intéressant de se poser la question. Plus les conséquences, par exemple, de la guerre commerciale sur l'économie européenne et les emplois. Ce matin, je voulais aussi vous parler de, ah, de l'écologie européenne. Là. Les partis d'extrême droite se félicitaient que le Green Deal européen ait été enterré. Ben, ce n'est pas faux. Effectivement, sale temps pour l'écologie européenne. C'est page 5 dans Le Parisien. Regardez ici. L'Union européenne, qui s'était posée elle-même en leader mondial de la lutte contre le réchauffement climatique avec son Green Deal, s'apprête à détricoter plusieurs de ces législations vertes. Pourquoi? Au nom de la compétitivité. Ah, je ne vous ai pas mis l'article. Voilà. Ce mardi, Clément Solal, très joli nom. Ce mardi, la Commission européenne va dévoiler son programme de travail pour 2025 et il a de quoi faire trembler les défenseurs de l'environnement. Dans ce document que le Parisien a pu consulter, l'exécutif de l'Union annonce une série de chocs de simplification en faveur des entreprises, dont la principale victime devrait être l'ambitieuse législation climatique de l'Europe. Donc les partisans de moins de normes pour les entreprises au nom de l'environnement, manifestement, ont gagné. Reconduite en juillet, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui défend cette ligne et qui va défendre cette ligne devant le Parlement de Strasbourg, avait pourtant avant incarné le Green Deal lors de son premier mandat. 2020-2024, l'UE avait voté une multitude de lois pour faire évoluer les secteurs des transports, de l'énergie, des industries, du logement, du commerce international vers l'objectif de quoi? De neutralité carbone en 2050. Mais, qu'est-ce qui a changé? Depuis les élections européennes de juin, eh ben oui, souvent on nous dit, parfois j'ai ce message dans le chat, ah mais les élections ça sert à rien, je veux pas voter parce que ça sert à rien. Depuis les élections européennes de juin, la conservatrice allemande a pris acte de la progression des forces de droite et d'extrême droite. Voilà. Les élections. Élections. Conséquences. La tendance n'est plus à l'accumulation de normes vertes. La nouvelle priorité à Bruxelles est de restaurer la compétitivité d'une économie qui décroche dangereusement face aux Chinois et aux Américains. Sitôt revenu à la Maison-Blanche, Trump s'est empressé de quitter les accords de Paris. Il l'avait déjà fait lors de son premier mandat. Ses menaces d'augmenter les droits de douane tous azimuts semble avoir eu raison des ambitions de l'UE de s'assumer en locomotive planétaire sur le plan climatique. Signe annonciateur d'un recul annoncé, fin 2024, la Commission a reporté d'un an une loi clé pour lutter contre la déforestation, par exemple. Certains se demandent si ce texte, censé interdire l'importation en Europe de produits comme le cacao, la viande bovine, le cuir, le papier, l'ivre, lorsqu'ils proviennent de terres déboisées après 2020, finira par voir le jour. Peut-être que ce texte ne verra pas le jour. C'était pour protéger les forêts du monde entier. La Commission se prépare désormais à lancer un grand détricotage. Elle présentera fin février une législation visant à alléger drastiquement la charge administrative en rabotant plusieurs autres piliers du Green Deal, du pacte vert. Dans le viseur, la directive sur le devoir de vigilance, par exemple, sur le devoir des grandes entreprises adoptée en avril. Ce texte devait contraindre d'ici à 2027 plus de 9000 grandes entreprises d'Europe à identifier puis à combattre, le cas échéant, toutes les atteintes à l'environnement ou aux droits humains éventuellement perpétrées par leurs sous-traitants partout dans le monde. Voilà. Donc, ne pas seulement faire attention à la façon dont on produit au sein de l'entreprise, mais aussi chez ses sous-traitants. Bon, ça, a priori, ça pourrait être abandonné. Autre texte menacé, la directive sur les informations en matière de durabilité. CSRD. Ah bah si, CSRD, tout le monde connaît ça. Obscur pour les non-initiés, ce sigle désigne une obligation pour des milliers d'entreprises de déclarer chaque année une myriade d'informations sur leurs pratiques environnementales, sociales, gouvernance, c'est ce qu'on appelle le CSRD. Il y a des gens qui sont chargés de ça dans les grosses entreprises. Émissions de CO2, gestion des déchets, utilisation de l'eau, égalité salariale, politique d'intéressement, pour que les investisseurs puissent identifier les acteurs d'économie qui sont vertueux sur ces sujets. Cette loi, déjà transposée en France d'ailleurs, qui s'applique pour l'instant aux grandes entreprises, devait concerner plus de 40 000 sociétés en Europe d'ici 2028. Voilà. Et ce texte est menacé. Alors, évidemment, il y a des gens qui soutiennent ce détricotage, comme en France, le républicain François-Xavier Bellamy. Il explique pourquoi il est pour. Je suis en faveur d'une simplification et d'une suspension de l'application de ces législations. Ce virage de la Commission arrive trop tard, trop lentement. L'agenda normatif installé par l'UE depuis des années ne sert pas la cause du climat, dit-il, mais fragilise les entreprises, les agriculteurs européens, qui respectent déjà les normes les plus exigeantes du monde. L'essentiel est de recommencer à produire en Europe. Et en Europe, constate le Parisien, c'est désormais cet argumentaire « produire plutôt que protéger la planète » qui a le vent en poupe. Nas, je pense qu'on en parlera demain, parce qu'hier on a consacré plus de 50% de la revue de presse à ce sommet parisien sur l'IA. Il est en train de se poursuivre aujourd'hui, et je pense que dans les journaux de demain, il y aura beaucoup d'articles pour la conclusion de ce sommet, et je vous en parlerai sûrement demain. Ouais. Merci d'être aussi nombreux ce matin, merci beaucoup, ça fait plaisir. Sinon, bonne nouvelle, un astéroïde a 2% de chances de rentrer en collision avec la Terre en 2032. Merci à la Dang Games. Information qu'on a évoquée la semaine dernière dans le Matin d'Étienne. On s'est beaucoup penché là-dessus. Je vous lis. 2%. Et Usul me dit que le pourcentage a même augmenté. Ce que confirme Chuckymax. Ouais. On en a parlé, des scénarios, de ce qu'on pourrait faire et tout. On y reviendra si. À 5%, je vous en reparle. Renifleur de paix, bonne journée à toi. À 5%, je vous en reparle. On est à 5%? Mais il y a des solutions. Ouais, stressez pas trop, il y a des solutions. On va envoyer. Comment il s'appelle l'acteur là? On va envoyer dessus là. Comment s'appelle l'acteur qui pète des astéroïdes? Bruce Willis. Non, pas un gros missile. On va envoyer Bruce Willis. Tout va bien. Non, le mec qui pète les astéroïdes, c'est Bruce Willis. Oui, il n'est pas au top, mais c'est pas grave. Oui, il est pas super, je sais qu'il n'est pas super en forme. Ou Chuck Norris. Dites-moi, est-ce que quelqu'un dans le chat osera me dire que il y a un astéroïde d'ailleurs, non? Un astéroïde. Pourquoi une? Un astéroïde. Astéroïde. Du grec astroïdes, qui ressemble à une étoile. Un astéroïde. Donnez-moi un astéroïde qui pourrait résister à Chuck Norris. Ha. Ulysse demande, l'astéroïde va-t-il s'écraser sur Terre ou ailleurs? Bah, c'est toute la question. C'est pour ça qu'on en parle. Il faut envoyer Mister V, chaque barque, j'ai la ref. On s'est refait le clip la semaine dernière. Salut Ulysse. Merci d'être avec nous en vrai. Quarante mètres de diamètre. Hein? De quoi vous... Ah oui, j'ai eu peur. De quoi tu... Ah oui, tu parles de l'astéroïde. Ok. Oh là. Ouf, j'ai eu peur. Ok. Ok. Alors, maintenant, on va parler de quoi? Va parler de quoi? Ah, du handicap. Ah bah oui. Alors ça, c'est important. C'est la lune de la croix, je crois. Non, de l'humanité. Ouais, de l'humanité. Ça, c'est bon, ça, c'est une marotte, désolé. Moi, je pense que le degré de civilisation d'une société se mesure notamment à la manière dont cette société traite, s'occupe des personnes en situation de handicap. Eh bien, en la matière, il y a un truc qui ne va pas. C'est quoi le sondage? Joli. Loi handicap. Va sur CNews. Non, ça va, moi, Golden Toast. En vrai, non, ça va. Non. Ça, tout, mais, comment on dit, sans façon. Pour rester poli. Loi handicap, c'est une loi qui a 20 ans et en fait, les promesses n'ont pas été tenues. L'humanité n'est pas le seul à le dire ce matin. Il y a plusieurs articles sur le sujet qui font le même constat, mais c'est l'humanité qui constate son plus gros dossier à ça. Le texte de 2005 pour l'égalité des droits et des chances n'est toujours pas effectif. Faute de volonté politique, faute de moyens suffisants, laissant la part belle aux discriminations, et ça ne va pas du tout. Édito, Marion Dallard, pour certains plus que pour tous les autres, la vie quotidienne est une course d'obstacles. Pour certains plus que pour tous les autres, se déplacer, être soigné, se loger, travailler, se cultiver, s'informer est une gageure. Pour 12 millions de Français, le handicap, parfois peu visible, souvent invasif, est-ce qu'on peut envoyer un max de force à Zoropsis, s'il vous plaît? On est avec toi, en fait. On est avec toi. Et on te donne toute la force qu'on peut. Ça va le faire, ça va le faire. On y croit. Moi, j'y crois. Merci pour tous vos messages. C'est pour toi. Et on y croit. Pour 12 millions de Français, le handicap, parfois peu visible, souvent invasif, est presque toujours motif de discrimination. Merci pour vos messages. Malgré les incantations, les beaux discours, les grandes causes décrétées, cette rupture d'égalité demeure une entrave majeure à notre vivre ensemble. Il y a 20 ans, la France se dotait d'un outil législatif ambitieux. La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées. 2 décennies plus tard, à l'heure d'en dresser le bilan, le constat est amer. Et il est à ce point unanime qu'en 2023, le Conseil de l'Europe a même condamné la France, condamné Paris, coupable de violation des droits des personnes handicapées. Donc il n'y a pas que l'humanité qui le dit. sans cesse reporté, volontairement abaissé, les mesures concrètes votées dans la loi de 2005 en matière de logement, de transport. Bien sûr, Lona Koulbifa, tu peux proposer. D'emploi, d'accessibilité des lieux publics sont dans l'ensemble peu, voire pas appliqués. A toujours des bonnes raisons, hein. Notamment économiques. Mais l'intégration des élèves handicapés est sans doute le point le plus sombre du tableau, écrit Luma. Révélateur de l'absence de volonté politique, le déficit de moyens humains et financiers laisse chaque année des milliers d'élèves à la porte de l'école. Alors, moi je mets un bémol. Ça ne va pas. Non, tu n'es pas chiant du tout. Non, c'est juste que tu peux proposer. En général, il y a plusieurs propositions. On fait plutôt ça à la fin du stream, parce que sinon je vais oublier. Mais à la fin du stream, tu peux tout à fait proposer, j'irai voir. En matière... Ne disons pas qu'en 20 ans, rien n'a été fait. La France, alors, moi, c'est une question que je suis de très près. La France a progressé en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap à l'école, au travail, dans la vie de tous les jours. A progressé un peu. C'est très insuffisant. Mais il ne s'est pas rien passé. C'est juste que ce n'est pas assez, en fait. Voilà. Et c'est loin d'être assez. Il y a eu des choses, quoi. Donc, par exemple, quand je lis laisse chaque année des milliers d'élèves à la porte de l'école. Oui, mais c'était pire encore avant. Alors, je ne dis pas que c'est bien. Hein, je ne dis pas qu'il faut se contenter de ça. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais c'était encore pire avant. Voilà. Mais il faut faire beaucoup plus. Pour les personnes concernées, leurs proches, les aidants, la moindre démarche administrative afin de faire reconnaître un handicap et de faire valoir le droit relève d'un épuisant labyrinthe administratif. Ça, c'est vrai. Sans doute suffirait-il de changer de regard politiquement, collectivement, humainement, le validisme est un poison qui cantonne le handicap à la vision de celui qui n'en est pas porteur et résume l'action à une litanie d'obligations réglementaires, certes contraignantes, mais dans les faits contournées. En proposant d'inscrire l'accessibilité dans la Constitution, moi je suis d'accord, le Parti communiste, l'Humanité est un journal communiste, hein, entend rompre avec une inégalité criante. Il s'en va du respect des droits des personnes handicapées, il en va de leur autonomie, il en va de leur dignité. Je ne peux enlever aucun mot à cet édito de Marion Dallard que je trouve extrêmement pertinent. Voilà. Et vous avez un coup de projecteur dans l'Humanité sur le fait que cette loi n'a pas été appliquée ni respectée. Je lis le dossier. Tiens, par exemple, sur l'accessibilité, j'essaie Xélite tous les jours, ouais. Sauf quand j'ai question pour un champion. L'accessibilité, ça c'est essentiel. Pouvoir se déplacer sans entrave est la base d'une vie de citoyen libre, se déplacer sans entrave. Mais pour les porteurs de handicap, ça reste impossible. La loi de 2005 stipulait pourtant que tous les lieux, tous, devaient être accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées. Quel qu'en soit le type de handicap. Rappelons que quand on rend un lieu accessible aux personnes en situation de handicap physique, on les rend accessibles aussi aux personnes diminuées, malades, accidentées ou âgées. Donc ces efforts-là, c'est pour une grosse partie de la société, quoi. Hein ? Merci Annie Tropical pour le prêt. Elle donnait cette loi 10 ans aux 1,8 million d'établissements recevant du public pour faire les travaux de mise en conformité. Au dernier décompte en 2023, seulement la moitié l'avait fait. Donc, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. La moitié de ces lieux ont fait les travaux, mais que la moitié. Au nom de l'économie, c'est toujours pour des raisons d'argent, l'État n'a pas cessé de repousser et d'aménager cette obligation. Donc ça, c'est pour les établissements qui accueillent du public. Idem pour les transports. Oui, je sais, Lilou. Mon fils qui est dyspraxique. Ça fait un an et demi qu'on se bat avec la MDPH, car à l'école, c'est une catastrophe pour lui en CM1 et toujours rien de fait, ni de mis en place. Il coule, il ne peut rien faire comme les autres enfants, il se sent hyper seul et aucune aide n'est mise en place à l'école. C'est démoralisant. Je sais, c'est pour ça que j'en parle souvent. Ça ne va pas. La France ne traite pas ce sujet comme elle devrait le faire. Merci la J05. Donc, sur les transports. Idem. Seulement aujourd'hui, par exemple, 65% des gares Des 736 gares définies par la SNCF comme à rendre accessibles prioritairement, 65% seulement de ces gares l'ont été rendues accessibles. Tu prends le train, il y a des gares où tu peux descendre, mais d'autres pas, quoi. Ou l'inverse, quand tu prends le train. Tu peux prendre le train dans cette gare-là, mais pas dans celle-là. C'est quel enfer pour les gens qui doivent se déplacer, quoi. Donc là, l'humanité dresse tous les sujets. Je pense qu'on va parler du logement et de l'éducation aussi, hein. Les compensations financières. Le droit à la compensation précise que la société doit prendre en charge les aides matérielles et humaines nécessaires pour compenser le handicap. Voilà. Ce faisant, il est l'outil de l'autonomie, d'une participation à part égale à tous les aspects de la vie sociale de la personne en situation de handicap. Mais la prestation de compensation du handicap, la PCH, qui incarne ce droit, n'a pas été revalorisée depuis 2006. C'est impossible. 2006 ? T'avais 19 ans. C'est vrai, ça ? C'est fou. Heuristique, en fait, tu n'écoutes pas les mots. Heuristique écrit, je t'entends, hein. Heuristique dit, je n'accepte pas que tu dises que des choses ont été faites. Quand tu es de l'intérieur, en tant qu'Andy, tu te dis tout le contraire. Les yeux d'invalides ne peuvent pas se rendre compte de la violence de cette société validiste. Les stats n'y changent rien. La majorité des handis, ce n'est pas des handis physiques, handicap physique, tu veux dire, qu'ils ont. Là, on te donne des stats pour te faire croire que les choses ont été faites. Sauf que dans la globalité, si tu élargis le spectre, tu t'assures que rien n'a été fait. En fait, le problème, c'est que une affirmation radicale, elle rend ton discours inaudible. Dire qu'en 20 ans, rien n'a été fait, bah, ça va permettre à tous les gens qui vont te prouver que dans cette gare-là, dans cette entreprise-là, dans cette école-là, des choses ont été faites, eh bien, ils vont pouvoir te dire, bah, en fait, tu racontes n'importe quoi. Et donc, tu donnes des arguments en fait, au camp d'en face. Et quand tu dis à l'inverse que des choses ont été faites, mais c'est très insuffisant et que ce n'est pas du tout ce qu'il faudrait faire, il faudrait faire beaucoup plus, eh bien, en fait, tu mets en difficulté la personne qui, en face, essaie de faire croire que beaucoup ont été faits. Mais si tu es radical dans ton affirmation, en disant que rien n'a été fait, en fait, tu donnes des armes au camp d'en face, parce qu'ils vont dire « mais c'est faux ce que vous dites ». Donc, pour moi, la formation la plus juste, il se trouve que la question du handicap, je la connais un petit peu. Hein. Voilà. Je la connais très très bien, la question du handicap. Et en fait, la vraie affirmation, c'est des choses ont été faites, mais c'est ridicule et c'est insuffisant. Là, ça a du sens. Et là, tu peux te battre avec ce genre d'argument. Voilà. C'est l'humanité, ouais, qui consacre un dossier à ça. On est d'accord, l'île officielle a raison. Mon métier, c'est d'être assistant social, et oui, on a fait des choses, mais il le faudrait partout, ce qui, pour moi, n'est pas le cas. On est exactement d'accord. À un moment, pour que votre propos soit convaincant, pour convaincre les gens qui ne sont pas convaincus, il faut y mettre de la nuance. Parce que la radicale... Ça, c'est ma philosophie, mais vous pouvez... Vous êtes évidemment libre de ne pas la partager, ce n'est que ma philosophie à moi. Quand vous êtes radical dans l'affirmation d'un fait, mais quand vous êtes par la radicalité de votre expression, vous allez vous forcez le trait. Vous le faites en fait pour le bien de la cause, parce que vous dites en forçant le trait, je vais être entendu et je vais convaincre. Donc je force un peu le trait et je dis par exemple quand un peu a été fait, je dis non, je vais dire que rien n'a été fait, les gens vont plus m'entendre. Le problème c'est que ce que tu peux provoquer aussi, c'est un braquage des gens que tu vas convaincre et qui vont dire ben non, c'est pas vrai, c'est pas non. Donc c'est pas vrai, et si c'est pas vrai, ce que tu dis, donc c'est faux, totalement faux, et en fait ton propos n'est pas acceptable, je ne peux pas l'entendre. Donc attention à la radicalité de vos propos, même si parfois vous le vivez dans votre chair, la personne qui a exprimé cette idée, je pense, est en situation de handicap. Et donc, comme le dit Cynthiana, je comprends le ras-de-bol de ces gens qui poussent à dire ça. C'est exactement ça. Je comprends que quand on vit ça dans sa chair, on a envie de porter une parole radicale. Mais je pense que parfois cette parole radicale peut être contre-productive, quoi. Vous voyez? Mais cette philosophie, elle peut être erronée, cette philosophie qui est la mienne, hein. Alors, compensation financière insuffisante. Éducation, l'exclusion continue, oui. Après des siècles de relégation dans des institutions pour personnes malades, la loi de 2005 a entériné la scolarisation des enfants handicapés. Hein, ça, c'est la règle, de préférence dans les écoles ordinaires. En 20 ans, l'amélioration a été fulgurante. Vous voyez, ce journal L'Humanité, qui est très critique vis-à-vis de ce qui est fait, il écrit noir sur blanc, en 20 ans, l'amélioration a été fulgurante. Vous comprenez la nuance du propos? Voilà. Et L'Humanité dit aussi l'exclusion continue. Vous comprenez? Depuis 2006, le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés à l'école a considérablement augmenté, passant de 155 000 à la rentrée 2006 à 436 000 à la rentrée 2024. Et c'est insuffisant. Mais c'est une progression. Mais ces chiffres cachent des réalités plus contrastées. Beaucoup de personnes restent encore aux portes de l'école, et ça, on est bien d'accord. C'était le cas à la rentrée 2022 de 18% d'enfants accompagnés, par exemple, par les associations de l'UNAPEI, hein, l'Union nationale des parents d'enfants inadaptés, c'est le nom de la sauce. Un nombre encore plus important n'est scolarisé qu'à temps partiel, parfois quelques heures par semaine, ce qui est honteux, faute notamment d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. Force à tous les AESH de France, d'ailleurs. Un personnel précaire, sous-payé, pas formé, qui se voit de plus en plus contraint à partager son temps entre plusieurs écoles, ce qui est honteux. À l'école, les élèves sont confrontés à des enseignants peu formés, mais surtout à un système scolaire qui leur demande de s'adapter à un modèle unique, et tend à mettre en échec tous ceux qui ne maîtrisent pas ces codes. La promesse d'éducation est aussi entravée par la dégradation générale des moyens de l'école en raison des économies budgétaires faites sur la quantité et la qualité du personnel enseignant et encadrant. Voilà. Bien sûr que ça n'est pas des faits. Matou, question intéressante de Matou. Petite question, pourquoi mets-tu en doute ta pensée lorsque tu parlais de ta vision des choses sur la radicalité en pensant que ce n'est que mon avis? Pour le coup, ça n'est pas des faits. Tu dis bien sûr que ça n'est pas des faits. Rien de ce que j'exprime dans cette revue de presse ne sont des faits. Ils passent tous par mon petit cerveau, avec mes filtres, conscients, inconscients, mes valeurs, conscientes, inconscientes, mon parcours, d'où je viens, qui je suis. Rien de rien, rien, rien de rien. Donc, même ce que je considère comme un fait, un chiffre, passe par ce chiffre que j'ai choisi, pourquoi celui-ci, pourquoi pas un autre, pourquoi telle étude, pourquoi ce journal. Donc, on est dans une subjectivité totale. Hein. Ça ne veut rien dire, en fait. Et passer par les filtres des journaux que je consulte. Anolia, exactement. C'est pour ça que même quand j'exprime un avis, une opinion personnelle, je mets toujours des bémols sur la pertinence de cet avis. Et quand je ne le mets pas, il faut vous que vous le mettiez. Bien sûr. C'est à partir de là que l'échange peut être intéressant. J'entends ce que tu dis, mais le fait est que la radicalité va se faire braquer l'autre partie dans un débat. Oui, moi je pense que la radicalité peut braquer l'autre partie dans un débat. Je le pense, mais peut-être que je me trompe. Je sais, Alexandra, je sais. Donc, l'exclusion, l'éducation, ça va pas. Le logement, le grand recul. Voilà. Et je vais à la conclusion de l'article, de l'excellent article de Camille Bauer. Sortir du validisme. Au-delà du nécessaire respect des améliorations matérielles prévues par la loi, c'est un changement d'approche radicale que demandent de plus en plus de militants handicapés. Ils appellent à rompre avec le validisme, hein, que le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation caractérise comme. C'est quoi le validisme? La conviction de la part des personnes valides que leur absence de handicap et ou leur bonne santé leur confère une position plus enviable et même supérieure à celle des personnes handicapées, et qui justifie une relégation dans les institutions, le déni d'autonomie et de citoyenneté à part égale. Une critique partagée par le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, dans un rapport de 2022, il s'en prenait à la France, fustigeant une législation et des politiques publiques fondées sur le modèle médical et des approches paternalistes du handicap. Voilà. 20 ans après, le bilan accablant de la loi handicap. Merci l'humanité pour ce dossier. Benze Warman, ton commentaire était tout à fait pertinent. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est une erreur de. Je pense que c'est un misclic. Quoi? Oui, c'est un misclic. C'est un misclic. Effectivement, les médias et les journaux abusent des titres putaclic. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ouah, Cantino! Bon, t'entends des bonnes nouvelles dans l'actualité, elles viennent du chat. Cantino35, coucou Samuel, je t'avais envoyé un message il y a 2 semaines, je ne trouvais pas de travail, c'est compliqué, je viens d'en trouver un. Merci pour ta motivation. Moi, j'ai rien fait, c'est toi qui as tout fait. Bravo à toi. Ça, c'est top. Super. Alors, Yams, je suis désolé, je manque de temps, en fait. En fait, Yams, je vais te répondre très sincèrement. Ta démarche, elle est pertinente, elle est extrêmement intéressante. Et dans une autre vie, j'acceptais souvent ce genre de choses, hein, des interviews, des échanges pour des travaux universitaires, pour des recherches, par exemple. Mais en fait, je reçois littéralement par jour plusieurs messages de ce type, dans un premier temps qui est compliqué. Donc, c'est par jour plusieurs. Et des messages que j'ai envie de. Auquel j'ai envie de répondre tout le temps, quoi. Parce que j'aimerais beaucoup pouvoir le faire. Et dans ma vie d'aujourd'hui, je ne peux pas. Je fais trop de choses, c'est de ma faute. Mais je ne peux pas, en fait. Donc je m'en excuse. Oh! Alors ça, Photosaurus m'apprend un truc. Alors là, c'est hyper intéressant. Merci, Photosaurus. Le saviez-vous, pute à clic, c'est un mot un peu. On est toujours un petit peu choqué par ce mot. Viendrait de put a click. Action d'ajouter un clic au lien, to put a click, plutôt que le sens français qu'on y entend faussement. Mais trop bien! Attends, c'est vrai? Ça c'est hyper intéressant. Put a click. Ce serait fou. Ah, sinon, il y a piège à clic aussi. Alors, j'ai un dictionnaire langue française qui dit Ah oui, action d'un doigt sur un bouton de souris. Ah non, ça c'est pour clic. Non, j'ai un dictionnaire qui dit que ça vient plutôt de l'autre mot. Voyez, enfin l'autre mot quoi. Ouais. Et vous savez quoi? On peut peut-être utiliser le mot piège à clic, non? Hein? Vous en pensez quoi? Comme ça, c'est mieux? Parce que d'après les recherches que je fais, l'origine anglo-saxonne du mot. Ah, regarde. Putaclic vient de l'expression anglaise click war. Click war qui désigne. Ouais. Bon, ok, d'accord. Donc, bon, hein? Force Broubrou. Clickbait en anglais. Ouais, c'est mieux. Hop, le handicap, on en parle et on en parle dès qu'on peut sur cette chaîne. Et on en reparlera. Ok, je vous emmène du côté de quoi maintenant? Ah ouais, la facturation électronique. Bon, je crois que vous maîtrisez plus le sujet que moi. Le Parisien est pas mal ce matin, il y a plein de petits articles vraiment intéressants. Ça me concerne parce que bien, chaque créateur de contenu en France doit gérer ce genre de truc. C'est où ça? C'est page quoi? Ça. Certains m'ont un peu rassuré sur cette histoire tout à l'heure, en me disant que ce ne serait pas foufou. Ebrity, bonjour Samuel, je soutiens ma thèse jeudi après-midi. J'ai beaucoup d'angoisse pour l'oral. Aurais-tu des conseils pour mieux appréhender la présentation devant des gens? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à... Salut Vincent. Bonjour Samuel Etienne, je suis avec des profs en formation, je fais découvrir Twitch, tu peux dire coucou. Salut Vincent, je connais bien Vincent. Bonjour Vincent, des profs en formation, ici on aime beaucoup les enseignants. On leur envoie de la force tous les jours. Voilà. C'est pas une blague. Pour moi, c'est un des plus beaux métiers du monde. Insuffisamment considéré, respecté et payé. Voilà. Donc force à vous déjà. Coucou Vincent, et puis bonne formation. Donc, Ebritil voulait des conseils pour son oral de thèse. En vrai, WASP, j'ai soutenu ma thèse il y a 2 ans et sincèrement, c'est un moment incroyable. C'est la seule fois de ta vie où tu vas avoir un échange scientifique riche sur le sujet que tu connais le mieux. Et dis-toi pour te rassurer que tu en connais 1000 fois plus sur ton sujet que les membres de ton jury. Hein. T'inquiète pas, me dit Lewis, tu sais de quoi tu parles, tu maîtrises ton sujet, il te suffit de le présenter, tout va bien se passer. Meilleur conseil pour les oraux, me dit Vieux Lama, il faut se dire que les personnes sont là pour t'écouter. Ils sont réellement intéressés par ce que tu vas dire. Tu connais mieux ton sujet que ceux qui vont t'écouter par définition, c'est ta thèse. Le poule pirate, qui connaît peut-être cet univers, me dit ton jury, normalement, il sera bienveillant. Je suis en thèse aussi, me dit Marine Tartine. Mes amis qui ont soutenu déjà leur thèse disent que ce qui les a aidés, c'est de se dire que ce sont eux les experts. Aucun membre du jury ne connaît aussi bien que toi ton sujet. J'adore cette idée, en fait. Bon, sinon, certains proposent d'imaginer ton jury tout nu. Moi, j'ai déjà fait ça, ça marche pas. J'aime bien cette idée, en fait, que le sujet, c'est toi qui le connais. Trop bien. Ok, ça me paraît pas mal ça. Les questions servent à Marine Tartine. Les questions servent à débattre scientifiquement, pas à te piéger. Et les rapports du jury te donnent une idée de ce qui sera abordé. Ok. Montre ta passion pour le sujet, Origetsu. Oui, aussi, il faut qu'il y ait de la passion. Oui, je suis d'accord. J'ai soutenu ma thèse il y a moins d'un an, c'était un très bon moment, me dit Toti. Dis-toi que si tu es arrivé à la soutenance, c'est que déjà c'est gagné. J'adore. Merci pour vos conseils, vous êtes formidables. Je le vois, me dit Vieux Lama, comme un échange plutôt qu'une épreuve pour te piéger. Bon, écoutez, vous êtes formidables. Le seul truc à préparer, me dit le poule pirate, c'est le timing de ta présentation pour tenir le timing. 45 minutes de mon temps. Voilà, c'est peut-être l'entraînement avant la présentation sur le timing. Et un conseil de MXFIA que je trouve pertinent, renseigne-toi sur les jurys pour connaître leur domaine, parce que parfois ils essaient de faire des liens de leur domaine avec le tien. Lily me dit exactement, si tu arrives à la soutenance, en fait c'est gagné. Ok, d'accord. Une discussion avec des futurs collègues. Le jury n'a rien à gagner à te piéger, t'inquiète, tout va bien se passer. Vous êtes formidable. Apporte des crêpes aussi. Me dit Maël. Ok, je sais pas ça. De rien, Ebritil. Les crêpes, je sais pas. Ok, vous êtes formidable. Bon, alors, c'est quoi cette histoire de facture, là? Let's go. Les petites entreprises devront bientôt payer pour facturer. Ah! D'ici à 2027, PME et micro-entreprises auront l'obligation de passer à la facturation électronique, donc pas papier, quoi. Via des plateformes privées. Mais sont-elles prêtes alors que la moitié de documents se font sur papier? La moitié de documents aujourd'hui de facture se font sur papier. Merci Akira. Merci pour le 6e mois. Merci Un Homme Lent pour le 23e mois. Merci la J05 pour le 6e mois. Merci Nitropicole pour le Prime. Une mauvaise nouvelle peut en cacher une autre. Merci Kéziam, bien sûr, j'irai voir ton DM. Après le possible abaissement à 25 000 euros du seuil d'exonération de TVA, mesure prévue dans le budget 2025 dont on a beaucoup parlé ici, mais qui pour l'instant est suspendue face à la colère des auto-entrepreneurs, les petites entreprises individuelles vont devoir se préparer à une autre échéance, mais ça on le sait depuis longtemps, mais c'est la première fois que je vois un article dans la presse généraliste là-dessus, merci Nimeria pour le prime, l'obligation de recevoir et d'émettre leurs factures au format électronique. La mise en œuvre de cette réforme prévue par la loi de finances 2020, donc c'est très vieux, doit se faire progressivement à partir de septembre 2026. Le coup près définitif tombera le 1er septembre 2027, donc on a en gros encore 2 ans, quoi. Toutes les PME et les micro-entreprises assujetties à la TVA devront s'y plier, ce qui est le cas de la plupart des créateurs de contenu, par exemple. L'outil public du gouvernement est annulé, c'est ça Clément, t'as raison. La mise en œuvre de cette réforme, blablabla. Donc, à partir de cette date, les entreprises ne pourront plus demander un paiement à leurs clients via un document Word ou Excel. Elles devront passer par une... Non, un PDF ne suffira plus. Il faudra passer par une plateforme dédiée. Voilà. Objectif, lutter contre la fraude en automatisant l'envoi des données aux services fiscaux. Aïe. Problème. Alors qu'à l'origine, il faudra passer par un site... Ces démarches devaient transiter par un portail public gratuit.
Ok.
L'idée a été abandonnée récemment, faute de temps et de moyens financiers. Ce désengagement est une très mauvaise nouvelle, dénonce Grégoire Leclerc, président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Une plateforme simple, accessible à tous, aurait garanti la bonne mise en œuvre de la réforme. Là, du coup, on va se retrouver avec une multitude d'opérateurs privés. Alors, les opérateurs privés, est-ce qu'ils vont faire les choses gratuitement ? Bien sûr que non. Et donc, d'où la question, quel prix les auto-entrepreneurs vont-ils devoir payer pour émettre leurs factures ? Ils devront, comme toutes les entreprises, se tourner vers un prestataire, donc ce qu'on appelle une plateforme de dématérialisation partenaire. Il y en a actuellement 80 qui sont homologués par l'État. Leurs prix ne sont pas encore arrêtés. Voilà. Et de leur côté, on évoque des niveaux très raisonnables. Quelqu'un me dit, moi je paye 15 euros par mois. Pour les TPE qui émettent en moyenne 125 factures par an et en reçoivent à peu près 250. On observe déjà des offres freemium, c'est-à-dire gratuites pour les volumes très faibles. Ensuite, les tarifications pour les TPE seront comparables aux offres de saisie de factures actuelles qui dépassent rarement les 20 euros par mois. Bon, ce serait de cet ordre-là. N'oublions pas que les TPE font déjà appel à des solutions auprès d'éditeurs de banques, d'experts comptables, dont un grand nombre se positionne en PDP. Donc PDP, c'est en dématérialisation partenaire. Récemment, peut-être une bonne nouvelle ça, le Conseil national de l'ordre des experts comptables a annoncé qu'il travaillait à construire sa propre plateforme gratuite. Mais la mauvaise nouvelle... Ah, zut. Il pourrait finalement y renoncer. Okay. Je ne vois pas comment les boîtes privées vont faire ça gratuitement. Ça vous inquiète ou c'est OK, ça, ce truc-là, les gens qui sont concernés, là ? Loutatug et Lydia, c'est qui pour moi ? C'est ma petite fille, je suis son grand-père. Chirac, mais sur Chorus, administration, je connais. C'est gratuit, pourquoi pas généraliser la plateforme ? Ouais, on l'a dit, ça ferait bugger le truc. Le live finit vers midi, Akira. J'ai un team, c'est à midi. Et quelle heure ? Oh, on est large. Le problème, aussi, l'exclusion des personnes, des entrepreneurs qui ne sont pas adeptes du numérique. Ben oui. Oui, aussi, c'est vrai. Il y a Dodge McBanane qui demande si ça va pas encourager le black. Alors, Skiz nous rassure et dit, il y a plein d'outils gratuits pour faire ça et ça fait gagner du temps. Ah ouais? C'est vrai, Kouz, Chorus, moi j'y passe un petit quart d'heure à chaque fois, ouais. Je connais. Je viens de faire un mini rototo. J'ai faim. Il est en live H24 ou quoi? Ouais. C'est ce que j'essaie de faire, ouais. Mais les jus de fruits qui n'ont pas la pêche, on va en parler ou pas? Non, j'ai pas le temps. Bref, les gens ont compris que c'était bourré de sucre et ils ont. Je te le fais en mode bref. Les gens ont compris que c'était gavé de sucre ou ces machins et que c'était pas bon pour la santé et du coup, voilà, les ventes s'effondrent. Voilà. Ça va être intégré dans les logiciels de compta, mais moi j'ai kiné, j'ai pas de logiciel de compta, moi, je fais ça à l'ancienne, moi. Tu crois que j'ai un logiciel de compta, moi? Oui, c'est vraiment plus simple, honnêtement, me dit Racine. Ah, moi, j'aime bien quand on me rassure comme ça. Le logiciel te dit combien tu as de facturer, quand tu vas faire les relances. Oh, mais moi, je fais ça, moi. Ouais. Ah, moi, j'oublie jamais une facture, moi. Alors, déjà, moi, j'ai mes petits process. Je reçois une facture à payer. Donc, je sais pas, moi. Les gens avec qui je travaille, ou je sais pas, les créateurs de contenu qui viennent faire des choses avec moi, je reçois la facture, je la paye le jour même. À J plus 1. C'est pas J plus 2 mois ou je sais pas quoi. Je la paye le jour même ou le jour d'après. Comme ça, c'est fait. Et j'oublie pas. Ça, c'est ma méthode. Et puis j'ai un petit fichier où je mets toutes les factures que j'émets. Puis de temps en temps, je vais voir. Je dis, dis-donc, toi. Parce que ici, ça paye à J, J plus 0, J plus 1. Mais en revanche, pour te faire payer, c'est pas J plus 0 plus J plus 1. Je reçois jamais ça. Et parfois, je vois des J plus 3, J plus 4, J plus 5. Là, j'envoie un petit mail. Je dis, ah, mais dites-donc. Je sens. Voilà, puis en général, ça paye là. Voilà, c'est comme ça que je. Tu gères mal ton cash flow. Ah oui, c'est nul. Sur un plan comptable, c'est une catastrophe. Moi, on me paye à J plus 2 mois ou 3 mois. Et moi, je paye à J plus 0 et J plus 1 jour. Racine, apparemment, tu n'as pas reçu ma facture, Samuel. Quelle facture? Mais comme ça, c'est propre, quoi. C'est carré. Après, c'est bizarre. Le plus gros J plus que tu as eu, 5 mois. Mais c'est bon, c'est réglé. Mais c'est marrant parce que, donc moi, je paye à J plus 0, J plus 1 quand je peux. Et donc, c'est ce qui est, je pense que je suis pas. Je pense qu'on n'est pas très nombreux. Et mais ça donne de mauvaises habitudes parce que moi, un jour, j'étais relancé par quelqu'un. Parce qu'une une semaine après, il n'avait pas été payé. Et qui m'avait relancé en mode t'oublies pas ma facture. J'ai fait sérieux, quoi? Alors en fait, t'es le seul à payer à J0, J plus 1, ok? Parce que tu penses que c'est important pour les gens. Et le gars, il te lance à J plus 7, alors que tous les autres lui payent à J plus 2 mois ou 3 mois. Et là, je fais, oh putain, les gars, j'ai dit, non, ça c'est pas fine en fait. Ça le fait pas, quoi. Je dis, ah oui, excuse-moi et tout. Je dis, bah non, c'est pas fair en fait. Sinon, on paye à J plus 2 mois, comme ça, à J plus une semaine, tu vas pas me relancer du coup. Je vais pas trouver ça très, très élégant, quoi. Tu donnes la main, on tend le bras, on prend le bras, ouais. Voilà, tout le corps même. Ouais. Bon, j'arrête de raconter ma vie. On parle de quoi après là? Bon, vous m'avez rassuré sur le truc là, ok, d'accord, ok. Des conseils pour un prof qui veut se reconvertir, deviens joueur pro ou joueuse Emma pro sur Valo. C'est hyper facile de progresser. Alors, attention, Vous savez, quand je vous dis que tous les journaux parlent du handicap, regardez. L'accessibilité des personnes handicapées reste en panne. Une page dans le Parisien, vous avez vu? Go Emma, on fera des rengaines ensemble. Homme au volant, danger au tournant. Eh ouais, eh ben ouais, c'est ça que disent les chiffres. Pour le coup, on est sur des faits là, c'est incontestable. Selon les derniers chiffres de la sécurité routière, les hommes sont responsables de 84% des accidents mortels. 84% des accidents mortels, ce sont des hommes qui sont impliqués. Je pense que cet article va vous intéresser. Bertrand Métayer a écrit. Les chiffres sont têtus. Alors que 50 ans d'efforts ont donné des résultats spectaculaires en divisant par 6 la mortalité sur les routes, la proportion d'hommes ne change pas. Selon les données de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, sur 3190 personnes décédées l'an dernier dans des accidents en France métropolitaine, 2477 étaient de sexe masculin, soit près de 78%. Et la moitié des femmes tuées étaient des passagères. Si de nombreux progrès ont tendance à gommer une partie de différence qui existe entre les genres, il est frappant de constater qu'ils ne se traduisent pas dans le champ des comportements routiers. Observe Jean-Pascal Assailly, psychologue, auteur d'Homo Automobilis ou L'humanité routière. Alors que la proportion d'hommes et de femmes est quasi équivalente parmi les usagers de la route, 84%, donc il y a autant de conducteurs que de conductrices, hein, en gros, 84% des présumés responsables d'accidents mortels sont des hommes. Sans que les assurances prennent en compte d'ailleurs ces comportements différents, on n'a pas le droit de faire des primes différentes selon qu'on soit un homme ou une femme. L'expérience du conducteur est tout de même évaluée, et il y a les malus bien sûr, hein, et les coefficients évoluent chaque année selon le nombre de sinistres. Donc même s'il n'y a pas de primes hommes et femmes, bon ben. Voilà, il y a des bons commentaires bien sexistes dans le chat là. Les modos, n'hésitez pas à mettre des petits. Ouais. Sugar Frog, il a l'œil, vous avez l'œil. Des petits avertissements, des petits. Hein, essayez de prendre votre cerveau là. Hein, et de réfléchir à ce qu'il y a dans l'article. Et d'attendre déjà la fin de l'article avant de dire des dingueries. OneJoy, merci pour le prêt. Les petits accidents basés sur des erreurs de conduite. Souvent on a entendu, ouais, mais les gros accidents, c'est les hommes et les femmes, en fait, elles ont des petits. C'est la tôle froissée, blablabla. Au quotidien, c'est les femmes. Ok, disons. Les petits accidents basés sur des erreurs de conduite et qui ne provoquent que des dégâts matériels légers sont autant partagés par les hommes et les femmes. Les plus graves, dont les causes sont des infractions, vitesse excessive, consommation d'alcool, franchissement de lignes blanches, sont en revanche très majoritairement du fait d'hommes. Pour le spécialiste, le monsieur qu'on cite là, qui s'appelle. C'est qui? Jean-Pascal Assailly. L'explication biologique, avec la production masculine de testostérone, qui pousse à la prise de risque, à l'agressivité, à la compétitivité, n'est qu'un seul des facteurs d'explication. Il y a aussi une raison d'ordre anthropologique dans une société qui, depuis des siècles, met en avant chez les hommes la maîtrise des outils dont fait partie la voiture, en opposition à l'éducation, à la protection des enfants, dévolue aux femmes, par la société. Hein. Ces dernières ont donc développé une empathie et un souci des autres qui se traduit aussi sur la route. La dernière partie d'explication, parce qu'il n'y a pas une explication, il y a des explications, est à trouver dans les méthodes d'éducation profondément marquées par les stéréotypes de genre. De nombreux parents sont plus permissifs, voire laxistes, avec les garçons qu'avec les filles, à qui on demande d'être plus prudents, d'être plus raisonnables, dit le psychologue. La transgression est davantage permise aux petits garçons, et cette forme de laxisme génère des prises de risque pour eux-mêmes et pour les autres que l'on retrouve dans les comportements routiers. Il suffit de voir comment je conduis sur GTA pour confirmer tout ce qui est dit dans cet article. Je suis un danger public. Ce qui donne chez l'homme une surconfiance dans leur capacité à conduire et un moindre respect des règles. Commercial dans la région lyonnaise, Myriam le constate chaque jour sur la route, une voiture qui colle, une voiture qui fait des appels de phare ou qui double par la droite est presque toujours conduite par un homme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais désolé, moi je roule plus beaucoup, mais à l'époque où je conduisais, quelqu'un me collait à 2 cm de mon pare-choc, me faisait des appels de phare ou doublait n'importe comment. Désolé les gars, je ne peut-être que c'est arrivé, je ne me souviens pas d'avoir vu une femme au volant. Hein ? Ah, il faut ma femme le faire. Si souvent, ça me fait péter les plombs. Ta femme, oui. Mais en général, hein, moi, je me rappelle pas avoir vu des femmes faire ça. Il y en a sûrement. Hein. En général, qui en finit par m'insulter quand il voit que c'est une femme au volant, glisse la mère de famille un brin fataliste. Hein, qui est commercial dans la région lyonnaise, donc elle roule. Hein, elle roule. Voilà. Les mecs sont persuadés que la route leur appartient, qu'ils peuvent tout se permettre. Même mon mari. J'adore ce passage. Même mon mari qui n'a pas le permis de conduire me donne des conseils quand on est en voiture. Mais la cerise sur le gâteau, quoi. Feu d'artifice, 14 juillet. Hein, bouquet final. La meuf, elle est commerciale. Elle roule je ne sais pas combien de milliers de kilomètres par an. Et son mari qui n'a pas le permis donne des conseils de conduite. Les experts. Quel bonheur. Les comportements masculins au volant ont un coût. Estimé entre 50 et 100 millions... Oula, papa, 50 et 100 milliards d'euros par an. Quoi ? C'est impossible. C'est énorme. C'est impossible. 50 et 100 milliards ? Je sais pas. Bon, je sais pas, je trouve le chiffre gigantesque. Mais bon, c'est ce qui est écrit. Avec les assurances, peut-être, ouais. Bilan humain. Ah bah ouais, remarque, oui, une vie humaine, oui, ça fait des sous. Ouais. Frais médicaux. Ah, c'est pas que la tôle. Hein. Dommages matériels. Bon, je sais pas. Bon, ça me paraît gigantesque, mais bon. En période de restriction budgétaire, il y a un déni de l'État sur ces questions. S'agace Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière. Chaque année, des centaines de milliers de vies sont victimes de ces démonstrations de virilité, ces prises de risques, ces refus d'autorité. Cela doit être sanctionné avec une véritable application des peines et un effet immédiat. Si la sanction arrive au bout de 2 ans, elle n'a pas d'effet. Outre le volet répressif, la solution reste l'éducation pour permettre une prise de conscience des hommes. C'est un peu ce qu'on fait ce matin en en parlant, même si certains ont du mal à l'entendre. L'article ne dit pas que tous les hommes sont des fous au volant. Hein. L'article dit juste que parmi les fous du volant, il y a une ultra majorité d'hommes. Ce qui n'est pas la même chose. Vous ne vous sentez pas forcément mis en cause, vous. Si vous conduisez correctement. Outre le volet répressif, la solution reste l'éducation pour permettre une prise de conscience des hommes. Il est important d'insister sur les grands facteurs d'accident qui les concernent particulièrement, la vitesse, la prise d'alcool, l'usage de stupéfiants. Voilà. Les hommes sont surreprésentés, donc c'est eux qu'il faut toucher. Merci OneJoy. Boubou dit, après, si vous vous sentez mis en cause, c'est que vous faites peut-être partie du problème. J'adore. Pas tous les hommes, seulement 86% d'un ISTV qui n'a rien compris. Oh. T'es encore plus nul en statistique que moi. Pourtant, en stage, je comprenais rien au lycée. Alors, l'article dit que 84% des accidents mortels sont causés par les hommes. Et toi, tu décris que 84% des conducteurs sont des chauffards. Je suis nul en stats. Hein. Vraiment, j'étais nul. Je trouvais jamais le résultat. Mais t'es pire que moi, quoi. J'adore. 84%. Des accidents mortels sont causés par des hommes et déduction 84% des chauffards sont des hommes. Ah oui, mais les gars, on va pas y arriver si on bosse comme ça. Les calculs sont pas bons, Kevin. Hein. Ah bah ouais, mais j'ai qu'à moitié écouté. Bah, dans ce cas-là, hein. Oh, c'est écrit en plus, putain. Pardon. Pourtant, je suis mauvais en stats. Hein. Mais même là, je vois qu'il y a un truc qui va pas dans le calcul. Mais bon, il y a un truc qui va pas chez les garçons, quoi. Bon, c'est intéressant, en vrai. À combien de pourcents d'hommes sont les chauffeurs? Je sais pas, ça, Guilherme, j'ai pas le chiffre. Je vous lis un petit peu. C'est marrant, dès qu'on parle des rapports hommes-femmes, ça déclenche des passions. C'est intéressant. C'est vrai, Wedorge. Tu as raison. Bon, les gars, les filles, la prochaine fois que vous évoquerez ce sujet avec des amis ou des proches, ayez ce chiffre qui est un chiffre officiel. Voilà. 84% des accidents mortels en France sont causés par des hommes. Je paye un abonnement aux Parisiens. Je paye un abonnement à tous les journaux. Pierre Newby, très bonne question. Voilà. Pierre Newby demande, est-ce que tu payes un abonnement aux Parisiens ou est-ce que tu es en partenariat avec le Parisien ? Je suis abonné au Monde, aux Parisiens, à Libération, à Figaro, au Figaro, à La Croix, à l'Humanité, à l'Opinion, aux Échos, à l'Équipe. Pourquoi ? Je pourrais avoir ces journaux gratuitement. Si je les demandais, je pourrais avoir les abonnements gratuitement. Mais ça voudrait dire qu'on serait dans une relation de dépendance avec ces journaux. Comment dire vraiment du mal d'un média si tu l'as gratuitement ? Donc, du coup, je préfère m'y abonner. L'autre raison, c'est que la presse, si vous ne la lisez pas, elle meurt. Donc, moi qui dis lisez les journaux parce que c'est plutôt un média de qualité, si je ne payais pas ces journaux, je ne donnerais pas le bon exemple, quoi. Donc, je le fais pour des raisons évidentes d'éthique, mais aussi pour des raisons de soutien de la presse. Allez, il nous reste quoi ? Oh, le rappeur ! Tu aimerais présenter le JT sur France 2 ? Non. Il reste 12 minutes. On va sur le rappeur ? On finira par le foot. Le rappeur, c'est dans Le Parisien, qui est très bon ce matin, et qui donne une pleine page à Riles, le rappeur qui a couru 24 heures, là. Une pleine page, c'est vachement intéressant. Il est où ? Là. On en parlait hier. C'est vous qui m'avez amené sur cette info, et Le Parisien y consacre une pleine page ce matin. Quel phénomène ce rappeur ? Riles a réussi un double pari ce week-end. Salut, Brebinana. Sportif, en courant 24 heures pour promouvoir son album Survival Mode, et médiatique, il nous a accordé sa première interview, ce qui est un joli coup du Parisien, pour le coup. Riles, mais pas relax. Oh putain, vous avez pas l'article. Pardon. Riles, mais pas relax. Bon. C'est bien qu'ils aient eu la première interview. Voilà. Riles, mais pas relax. Passons. Le rappeur rouennais, donc il est de Rouen, de 29 ans, a réussi son double défi ce week-end à Paris, sportif en courant pendant 24 heures non-stop. GG. Hein. Je crois qu'il s'est arrêté une fois pour faire pipi et une fois pour manger une date, quoi, je sais plus quoi. Courir 24 heures non-stop pour promouvoir son deuxième album. Et médiatique en faisant parler de lui bien au-delà de la musique et des frontières françaises. Son exploit a été suivi au total par 2,2 millions. Ah, il a vomi aussi. Ouais, c'est ça. Un coup pour pipi, un coup pour vomir. En 24 heures. Son exploit a été... J'ai vu des gars sur Twitter qui disaient... ouais, en fait, je vois pas pourquoi tout le monde félicite ce gars alors qu'en fait, il s'est arrêté deux fois. Bouffon. Oh là là. Quel bonheur. Les réseaux sociaux. Vas-y, va courir 10 minutes, toi, déjà. Son exploit a été suivi au total par 2,2 millions de personnes sur Internet et jusqu'à 170 000 en direct lors du final, dimanche midi. Pour accentuer le suspense, il courait sur un tapis roulant devant une cage en verre devant trois scies circulaires qui donnaient l'impression qu'il pouvait être broyé s'il tombait. En fait, non. Hein. Mais voilà. C'était quoi l'objectif ? C'était de faire parler de son album, en fait, tout simplement. Et c'est réussi. 24 heures plus tard, c'est le calme après la tempête en toute simplicité. Pantalon de jogging, claquettes, t-shirt, bandeau aux couleurs noires de son album. Riles nous reçoit dans sa petite chambre d'hôtel parisienne avec son épouse Elisa, avec à ses côtés un ordinateur ouvert sur le bureau. On remarque que 6 de ses doigts de pied portent des pansements. Ils étaient bien amochés quand les médecins ont enlevé les chaussures, explique-t-il. Ils étaient en sang avec de grosses cloques. 24 heures, c'est normal. Mais je n'ai pas eu de douleur pendant la course, juste aux jambes et des maux de tête de la 12e à la 20e heure. Je me sens vraiment soulagé parce que j'avais un sacré poids sur mes épaules. 3 ans d'entraînement. Hein. Après 3 ans d'entraînement, j'avais extrêmement peur de ne pas tenir ma parole. J'espérais que cette performance ferait parler de moi dans la sphère musicale, mais je ne m'attendais pas à un tel engouement. J'ai l'impression que je suis entré dans une autre dimension. Mais cela a été plus dur que prévu. C'était la première fois que je courais 24 heures. Je n'avais jamais été au-delà de 12. En vrai, c'est fou. Hein. J'ai couru moins vite que j'espérais à 9,5 km/h et moins loin, 205 km. Hier, on avait calculé un tout petit peu moins en termes de moyenne horaire, mais c'est dingue. C'est dingue de faire cette moyenne horaire sur 24 heures. C'est complètement fou. Voilà. 205 divisé par 24, 205 km divisé par 24. Voilà, hier, bon, nous on arrivait à 8,54. Mais c'est fou. Voilà, bon, enfin, 8 ou 9, peu importe, c'est insane. 205 km. 205 km. Alors, oui, il y a des gens qui courent des distances comme ça, mais c'est des ultra-trailers. Hein, c'est des gens dont c'est la passion, quoi, absolue. Donc, lui, il a fait ça en mode en plus, quoi. L'essentiel, c'est que je n'ai jamais marché, ce qui est fou en vrai. J'adore parce qu'à ce moment, il y a Pointless Man qui dit qu'il pouvait marcher. Voilà. Et au moment, je lis qu'il n'a jamais marché. Je me suis juste arrêté pour les pauses pipi tout en restant sur le tapis. A-t-il eu des passages à vide? Plusieurs, entre 6 et 8 heures, 12 et 14 heures, à la 20e heure. La 22e heure a été affreuse, je sentais presque plus mes mains. J'avais peur de faire un malaise. Moi qui ne vomis jamais, j'ai vomi en avalant une date. Voilà. Bravo Moulbit. Après, je n'ai pris que du gel pour m'alimenter. Je pensais que les 12 premières heures seraient tranquilles, mais j'ai commencé à être dans le dur dès la 6e heure. Vous vous rendez compte? Au bout de 6 heures, ça devient dur. Et il faut qu'il aille à 24. Et je n'ai dormi que 2h30 la nuit précédente de la course parce que j'étais stressé. Stressé parce que les scies ne fonctionnaient pas comme ils voulaient. Elle devait tourner beaucoup plus vite. C'est vrai qu'elle tournait lentement et en fait, lui, il voulait que ce soit impressionnant et que ça tourne vite. Voilà. Riles n'avait rien pour l'aider, pas de musique à écouter, ce qui aide beaucoup, ni film à regarder. J'ai réussi à y aller jusqu'au bout, grâce à quoi? À mes meilleurs amis, qui étaient autour de moi et à ma chérie. Je pensais aujourd'hui au conseil que plusieurs athlètes m'avaient donné. Je n'ai pas pris d'entraîneur, mais j'ai fouillé un peu partout sur Internet et demandé à des spécialistes des courses d'endurance. Jusqu'aux 5 dernières minutes, j'ai eu l'impression de glisser, de chuter. Si j'avais fait un malaise, j'aurais pu taper une scie, mais il n'y aurait pas eu de danger mortel. Voilà. Le mec n'est pas complètement dingue, quoi. Heureusement. Ce défi avait aussi pour but de mettre la lumière sur son deuxième album, sorti le 10 janvier, directement numéro 1 des ventes une semaine plus tard. Il est arrivé 6 ans après le premier. Donc ce deuxième album, Survival Mode, chanté et rappé en anglais, est, écrit le Parisien, foisonnant, surprenant, percutant, mais sorti cette fois sans grosse maison de disques et sans publicité. C'est fou. Bah, ça servait à quoi les scies? Bah, c'était pour une dimension artistique un petit peu, quoi. Vous voyez? C'est marrant, il y a les gens qui disent qu'ils sont en mode dans le chat. Ah ouais, mais en fait, ils ne pouvaient pas se faire couper en deux par les scies. Donc vraiment, c'est ridicule comme exploit. Attends, vous vouliez que le gars se fasse découper? Je ne comprends pas la logique du commentaire. En fait, ce qui vous intéressait, c'est que la potentialité que le mec se fasse couper en deux IRL. Ok. Ouais, vous regardez trop Netflix, ouais. D'accord. Voilà. Ok. C'est bien de vouloir la mort des gens comme ça. On veut du sens à Mumu. Ouais, c'est pas Squid Game. Hein. Le mec a couru 24 heures, les gars. Les gens qui minimisent l'exploit parce que les scies pouvaient peut-être pas trop couper à donf, vous courez combien d'heures, vous? Vous courez combien d'heures, vous? Lui, il a couru 24 heures. Hein? Ouais, posez-vous les bonnes questions aussi. Hein. En one shot, hein. Alors. Je kiffe. Pour moi, la musique ne suffit plus en tant que telle. Il faut une image, un univers avec, ajoute Riles. Des milliers de nouveaux titres sortent chaque jour. Comment tirer son épingle du jeu? Il le dit, hein, c'est un truc de com. Pour mon premier album, j'avais sorti un son par semaine pendant un an pour attirer l'attention sur mon travail à la maison. Pour le deuxième, j'ai eu besoin de me renouveler, de me challenger. C'est toujours des coups marketing, reconnaît-il à propos de sa course. Mais la première raison, c'est d'accompagner l'œuvre sonore d'une œuvre visuelle pour véhiculer mon message de dépassement de soi et de survie. Dans un an, j'aurai 30 ans et je peux aussi montrer que je suis pluridisciplinaire. D'abord rappeur, mais je fais aussi de la peinture, de la danse, du sport. Pourquoi le running? J'ai commencé à courir pour arrêter de fumer avant les festivals de 2022. Je consommais beaucoup de cannabis à l'époque de mon titre marijuana, puis des clopes. Je me suis inscrit à un semi-marathon, puis à un marathon et j'y ai pris goût. C'est beau. C'est très beau. Mais ma course au sens propre comme au sens figuré n'est pas finie. Écoutez, moi je ne connais pas cet artiste, mais je trouve ça formidable. Si je devais écouter un seul titre de Rilès, c'est qui? On va s'écouter quelques secondes. Merci Hugo, t'as raison. Survival? On me dit beaucoup Brother aussi. Ok. YouTube. Jungle. Brother. Donc, ils sont en anglais. Hein. Ça, c'est avec... trompé. Avec Booking.com. Brother. Donc, c'est son premier album, ça. C'était il y a 8 ans. Came in this game like a motherfucking rat. Like I was starving for things I never thought I could have. I give you all I got, now you talk behind my back. I ain't a time philanthropist anymore. What? You came to me like a little child. I brought you up, fed you, and gave you all of my time. I taught you all I learned, then did you what I earned. Without me now you ain't even a piece of shit, you turned. Huh. Yesterday we were brothers, so now we enemies. Understand I'm no Comment ça se fait que je connaissais pas, moi? C'est fou, ça. C'est un classique, en fait. Comment ça se fait que je connais pas, moi? Ouais. Ok. C'est fou. T'étais pas sur Internet à l'époque? Ah bah ouais, c'est vrai. Je crois que j'avais même pas l'électricité. Pardon, Airwave? C'est les vacances scolaires, il y a des enfants dans le chat ou pas? Parce que j'ai des blagues qui sont... Moi j'ai des enfants de 4 et 8 ans, on peut avoir ce niveau de blague quoi. Il y a des vacances scolaires? Zone B? Ah bah, c'est pour ça alors. Okay, alors. Bon, il y a les enfants dans le chat, on va dire que ça. Ça va, c'est les vacances, c'est pour ça. Bah il est midi, putain, non, je suis en retard, j'ai un Teams pour préparer. Je me dépêche. Je suis en retard. Demain, 18h. Demain matin, il y aura une revue de presse. Demain matin. Putain, il est midi, vous m'avez pas dit en plus. Putain. Demain, 18h. Demain matin, revue de presse. Demain, 18h, MVP, venez, soyez nombreux. Pure émission. Ce soir, il y aura. Cet après-midi, on va jouer à Valo cet après-midi de 7-7. Il y aura triple stream aujourd'hui. Valo cet après-midi, stream ce soir. Triple stream. Demain matin, revue de presse. Demain, 18h, MVP. Cliché versus réalité. MVP, c'est l'émission qui explore toutes les voies professionnelles, les voies pro, pour que chacun puisse trouver sa voie, que vous soyez jeune ou plus âgé, hein, que vous songiez à votre orientation ou à vous réorienter. Cliché versus réalité, les métiers qui ne font pas rêver et pourtant qui peuvent être des métiers bien cool, genre comptable par exemple. Eh oui, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est demain 18h. Super line-up. Vous avez Marie Palot, vous avez Mimi Hegel, vous avez Ludovic Bi. B, pourquoi je dis B? Oh, c'est parce que je sors d'un truc de rap. Ludovic B, c'est drôle. Et David Castello-Lopez, un humoriste, journaliste et humoriste qu'on aime beaucoup. Voilà, ça c'est demain, 18h. Demain matin, revue de presse. Si comptable, ça peut être super de kid. Ça dépend des gens. Voilà. En plus, David, il aime bien les thunes, donc c'est bien de parler de comptable, pour ceux qui ont la ref. Donc, demain matin, revue de presse. Demain, 18h, il y a ça. MVP, venez, l'émission, en vrai, elle est cool. Il y a une super ambiance. C'est des sujets sérieux, mais on le fait de façon très, très chill. Et puis, cet après-midi, du Valo, après ma réunion. Et ce soir, je vais essayer de vous faire un petit stream de gaming aussi. Voilà. Je suis comptable, c'est top, c'est un métier super ouvert. Voilà. Bon, je vous montre juste très, très vite la une de l'équipe. Voilà, pour vous dire qu'il y a un match de Ligue des Champions assez fou ce soir. On en reparlera demain matin. Qui l'eût cru ? Huitième de finale, non, pas huitième de finale, play-off, aller Brest-PSG, c'est en deux matchs. Voilà, Brest en Ligue des Champions, si ça, c'est pas beau. Les amateurs de football vont suivre ça ce soir, on en parlera demain. Bien sûr, ils vont prendre 4-0, on verra, on verra, on verra, on verra. Si, c'est pas, voilà, je me dépêche, c'est ma réunion qui commence. Il y a des gens qui m'attendent, les gens qui travaillent, et c'est une super équipe autour de MVP. Ok, qui on raid ? Bon, on m'a fait des propales. Tadam, tadam, tadam. Ouais, j'ai plein de propales là. Ok. Ok. On me dit qu'une des joueuses était avec nous ce week-end à la RTS. Une des joueuses de Valo. Une des championnes qui nous ont fait rêver. Elle est en live actuellement. Ok, sur Valorant, comme par hasard, voilà, Margot, M-A-R-G-O-A-T, Margot, 29 viewers, let's go, petit raid, voilà, pour donner de la force à la streameuse et à la joueuse, je charge le raid. On se retrouve cet après-midi, on fera un petit peu de Valo, mais à un autre niveau, hein. Merci pour ce matin, vous m'avez régalé, c'était un plaisir. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. A tout à l'heure pour Duvalo, on fera du DM ensemble, on va bien rigoler. Voilà. Il n'y a pas du niveau, mais il y a du divertissement. Merci pour ce matin, c'était bien cool. Ciao, ciao.